nous crierons et nous chanterons. Les rachetés s'assembleront. Dans ce moment béni, nous partirons tous là. Les rachetés s'assembleront. Les chanteuses voient jailliront dans notre céleste cité. Les rachetés s'assembleront. Les rachetés s'assembleront. Du péché. Nous crierons et nous chanterons. Rachetés s'assembleront. Les défilés auront dans ces belles rues comme dans. Rachetés se rassembleront. Quelle musique, quelle cheveux cantiront dans la cité. Rachetés se rassembleront. Dans les rachetés se rassembleront. Notre mère, la vie du péché. Nous crierons et nous chanterons. Rachetés se rassembleront. Tous les saints chanteront les belles histoires de la rédemption. Rachetés s'assembleront. Alors les anges écouteront, mais ne pourront pas chanter. Rachetés s'assembleront. Louez soit le nom du Seigneur. Rachetés s'assembleront. Notre mère, la vie du péché. Nous prierons et nous chanterons. Rachetés.
What I'm thinking, I am thinking of the rapture in our blessed home on high. When the redeemed
are redeemed, I will take them in the end of the céleste cité. Rachetés se rassembleront.
All together.
Rachetés se rassembleront. Encore est-ce la vie du péché. Combien d'entre vous sont rachetés?
Voilà, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
Are you the redeemed?
Êtes-vous les restés?
When the redeemed,
alors, quand les rachetés se rassembleront,
là comme est l'avis du péché. Nous crions et nous chanterons. Que la
acheté, se rassembleront.
What am I thinking about?
À quoi je pense? Je pense au moment béni. Nous partirons tous là-haut, car les rachetés se rassembleront. Les chanteuses joies jailliront dans notre céleste cité. Les rachetés se rassembleront. Les rachetés se rassembleront. Là comme neige, la vie du péché. Nous prierons.
Amen. Let the reading say so. Amen.
I should tell it to you.
Thank you, Lord Jesus.
Merci, Seigneur Jésus.
Shalom to you.
Paix à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous pouvez vous asseoir.
Wow. I'm the redeemed.
Je suis racheté.
You're the redeemed.
Vous êtes racheté.
Amen. You ready to hear a voice of God to you?
Est-ce que vous êtes prêt à entendre la voix de Dieu pour vous? Amen.
You're the redeemed.
Vous êtes racheté.
Amen. Wow, it's such an honor to be here.
C'est tellement un honneur d'être avec vous ici ce matin, de vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ.
You are that elect.
Vous êtes cette semence royale élue d'Abraham. Vous avez la révélation.
You're standing upon the rock.
Vous tenez sur le rocher.
It's just awesome.
C'est tellement merveilleux. Je pensais à cela l'autre jour et vous savez, je me sens comme nous tenons sur le rocher. Nous sommes dans le rocher aussi.
So it doesn't matter.
Alors ça n'a pas d'importance. Ce rocher que le vent souffle, nous restons là et nous restons là. Et c'est comme, vous savez, la seule chose qui peut nous bouger, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Louez soit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Encore, c'est encore un honneur de me tenir devant vous. Vous êtes les rachetés de son sang, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je me sens grand comme cela de me tenir devant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. J'apprécie l'épouse qui répond à la parole, le message à travers le monde entier. Comme ils arrivent au bon temps, ce message que nous entendons aujourd'hui, c'est que nous n'avons jamais entendu ces bandes comme nous les entendons en ce moment. Jamais. Nous commençons tout juste à les entendre, à voir. Dieu est en train de les faire s'accomplir. C'est plus à jour aujourd'hui que jamais auparavant dans nos vies. Dieu accomplit sa parole et l'amène à s'accomplir maintenant même et continuellement en train de le faire. Et je tiens à dire merci, Seigneur, pour les choses, spécialement pour la radio de la voix. J'aime ça. Loué soit le Seigneur. Incroyable. Merci, Seigneur.
Every time that
chaque
you go
fois
there,
que vous allez là, c'est comme si vous étiez unis, vous rentrez directement dans la présence de Dieu.
Et un frère qui a cité une
citation, et ça l'a tellement béni mon cœur, et merci, frère, c'est que frère Branham a dit, nous sommes dans sa présence tout le temps. C'est une citation merveilleuse. Je ne l'ai pas avec moi, mais ça l'a tellement béni mon cœur. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes continuellement dans sa présence, tout le temps. J'apprécie vraiment l'application Lifeline et ce que le Seigneur fait. Et maintenant, le livre le prophète visite l'Afrique. C'est tellement incroyable. Il parle d'une série de bandes et qu'il parle de l'Afrique. Ah, c'est merveilleux. C'est tellement autant opportun. Je voudrais vraiment dire que j'apprécie le frère. C'est une grande œuvre qu'il fait, les traducteurs qui traduisent ce message pour que l'épouse puisse l'entendre à travers le monde entier dans leur propre langage et de l'entendre. Merci, les frères.
God bless.
Que le Seigneur vous bénisse.
It's such an important
c'est tellement une œuvre importante, la voix de Dieu, l'œuvre de la traduction, c'est un élément critique. Je ne réalise même pas comment c'est important, mais je sais que c'est très critique. Alors, les frères, merci, et les sœurs aussi, pour cette œuvre, et merci pour cette consécration et pour votre vie. Et j'apprécie tellement les témoignages et ce qui est mis sur le site de la voix de Dieu. Et chaque fois, c'est tellement une bénédiction. Et chaque fois que je vois une nouvelle concernant la distribution du message, cela touche mon cœur de voir que ces gens prennent la tablette et qu'on a sacrifié pour la faire. Je n'ai rien fait. Mais merci, Seigneur, que ce message aille dans leurs mains et qu'ils puissent l'entendre par eux-mêmes. La voix de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur. C'est tellement merveilleux. C'est tout pour nous. Nous sommes sous le septième ange, le ministère du septième ange messager. Nous sommes ces convertis. Nous ne croyons pas ceci parce que quelqu'un nous a dit quelque chose. Nous croyons ce message parce que nous avons entendu le prophète de Dieu nous parler lui-même. Et nous l'avons entendu par nous-mêmes.
Amen.
Mais à chacun de vous, c'est tellement merveilleux d'être ici ce matin avec vous. Et vous savez, quand différentes personnes sont malades ou ils ratent l'église et vous ne les voyez pas pendant un certain temps, je pense que Sœur Rachel, te voilà Sœur Rachel, que Dieu te bénisse. Je savais que tu étais ici la semaine passée et je n'ai même pas pu te serrer la main. Mais voyez, Sœur Chambless nous manque et nous manquons certaines personnes. Mais que Dieu vous bénisse. Et vous savez, c'est comme s'il nous manque. Ce n'est pas la même chose lorsqu'ils ne sont pas là. Pour chacun d'entre nous, c'est que, peu importe ce que c'est, nous sommes tous unis aujourd'hui, mais c'est, je ne t'ai pas vu et tu me manques vraiment. Ce n'est pas pareil quand tu n'es pas là. Ce n'est vraiment pas pareil. Et de penser comme ça, vous savez, lorsque vous pensez à votre vie, est-ce que vous passez dans votre vie, vous pensez à votre vie et votre famille, et quelqu'un qui manque à la table, c'est simplement qu'il manque il y a une chaise vide, c'est pas pareil. Et vous savez, lorsque vous pensez à cela, nous sommes juste unis ici, ensemble, sous ce grand message de l'heure. Cela veut tout dire pour nous. Et cela doit être exactement à la lettre ce qu'il a dit, la façon qu'il a dit, tout ce qui en est. Mais certainement, ce n'est pas la même chose sans Frère Joseph. À la voix de Dieu, aller dans l'allée, bon matin,
messieurs,
que ce soit Stillwater ou peu importe, et de le voir derrière cette chaire, tu nous manques, Frère Joseph, et on a hâte de te revoir. Paix à chacun de vous. Quel message cela est aujourd'hui? Ce message qui nous a été apporté est une lettre d'amour écrite à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est incroyable, c'est totalement incroyable. C'est que pour nous, aujourd'hui, ce jour même, c'est ce que Dieu veut que ses enfants entendent aujourd'hui. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Comment aimeriez-vous que Elohim qu'il vienne à vous dans la chair humaine et qu'il vous parle et qu'il vous révèle les mystères des signes du temps de la fin, des tremblements de terre à divers endroits, la politique et toutes les choses et la destruction et Sodome. Qu'en est-il entre les lignes?
to tell you about the resurrection,
de vous parler de la résurrection, du changement du corps, de l'enlèvement.
How would you like for him
comment aimeriez-vous qu'il vous dise et qu'il vous montre le signe messianique de ce temps de la fin?
How would you like for him
comment aimeriez-vous qu'il vienne à vous et qu'il vous dise à propos de, du bouc?
That a Gentile would bear his name.
Que les gens des nations porteraient son nom.
The manifested word of the ram.
La parole manifestée.
To tell you, don't you see Malachi 4 coming?
Qui vous dit, ne voyez-vous pas Malachi 4 venir?
How would you like for him to tell you?
Comment aimeriez-vous qu'il vous dise ces choses?
And so many more nuggets.
Et tellement plus de pépites d'or dans ce message.
Guess what?
Devinez quoi? Il va être ici aujourd'hui pour vous dire exactement toutes ces choses et même plus. Ce message vous dit que vous êtes son épouse.
Il
vous dit d'où vous venez et où vous en allez. Dans ce message, Frère Branham dit, la parole est venue au prophète. Si la parole est en chair, elle va aller au prophète. Peu importe où c'est, ça va aller au prophète. Cela doit arriver.
Point à la ligne. That thrills every heart of every believer.
Cela enflamme
Amen.
Chaque cœur de tous les croyants.
70 years ago,
il y a 70 ans,
le
mois passé,
taken with his prophet,
il a eu sa photo prise
him to be his mouth
avec son prophète.
The voice
il a choisi
God
lui pour être sa bouche, la voix de Dieu pour son épouse, pour montrer que nous sommes au temps de la fin.
You speak it and I will perform it.
Tu le prononces et je vais l'accomplir. Ce message produit la parole parlée, la semence parlée, épouse. Écoutez-le. Et c'est comme ça que vous savez que vous êtes l'épouse.
Know who he sent.
Pas qu'il a envoyé. Croyez ce qu'il a dit à propos de vous et agissez par rapport à la foi qu'il vous a donnée. Le Saint-Esprit est le seul qui peut vivifier la parole pour vous. Lui seulement révèle ce message, vous révèle ce message.
I cannot reveal this message to
je ne peux pas vous révéler ce message. Je n'ai rien à y ajouter. Je n'ai rien à y retrancher. Je ne peux pas l'interpréter. Je n'ai pas le droit de le faire. Je ne peux pas vous dire ce qu'il voulait dire. Je n'ai aucun désir dans mon cœur de faire une telle chose. Ce message tient par lui-même, il parle de lui-même, il n'a pas besoin d'aucune interprétation. Dieu a envoyé un prophète et les prophètes ont la divine interprétation et c'est la fin de ça. Et ça règle la question. Loué soit le Seigneur.
This message is changing us.
Ce message nous change.
Just like Abraham and Sarah, their
tout comme Abraham et Sarah, leurs noms ont été changés.
Then their bodies were changed.
Ensuite, leurs corps ont été changés.
I don't know the sequence of all of it.
Je ne sais pas tout l'ordre de comment c'est arrivé. Je sais simplement qu'ils ont été changés. Et quand
Elohim
est venu les voir, qu'il a révélé les secrets du cœur, il y a quelque chose qui est arrivé, qu'ils ont été changés pour recevoir cette promesse. Et c'est exactement ce qu'il fait pour vous et pour moi aujourd'hui. Il nous change de l'intérieur vers la sortie. Et je m'attends à un changement du corps et nous allons recevoir ce Fils promis, tout comme il l'a dit. Et je le crois de tout mon cœur. J'aimerais vous partager cette citation avec vous.
Frère
Branham dit, pensez à cela, vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est qui vous êtes. C'est, voici ce qu'il a dit.
Citation. There is the church elected.
Voilà l'Église élue,
not in Sodom,
qui n'est pas dans Sodome,
called out,
appelés à sortir, séparés.
They get a messenger.
Ils reçoivent un messager.
Notice,
remarquez,
the Abraham
le groupe d'Abraham a reçu le message.
And now, what was it?
Et qu'est-ce que c'était
God
là? Dieu qui lui avait parlé pendant tout ce temps par des symboles et des formes et tout est venu là-bas et le voici qui se manifeste ici dans une chair humaine et qui discerne la pensée qui est dans le cœur de Sarah derrière lui. Et Abraham a dit, c'est Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Souvenez-vous, immédiatement après cela, Sodome a été brûlé. Pensez-y, l'Église est peut-être en train de recevoir son dernier signe. Voyez, vous avez poussé des cris, vous avez eu la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, des moments merveilleux à pousser des cris et à vous réjouir, à parler en langue, l'interprétation des langues, la guérison divine. Mais maintenant, où en sommes-nous? Dieu qui parle ici même, parmi nous, à travers nous, de façon audible, tout comme il l'avait fait là-bas, et il a promis de le faire. Voilà le point. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. La Bible a dit, Jésus a dit qu'il le ferait, qu'il se présenterait lui-même de nouveau. Fin de la citation. Loué soit le Seigneur.
Thank you, Lord Jesus.
Merci, Seigneur Jésus.
Because he lives, we live also.
Parce qu'il vit, nous vivons aussi.
There's many requests here.
Il y a beaucoup de requêtes ici.
It's been written down.
Qu'ils ont été écrites.
It's on your hearts.
C'est sur votre cœur. Ceux qui sont à l'écoute, sur la ligne, dans vos maisons, dans vos églises.
Wherever you are, you're listening.
Peu importe où vous êtes, vous êtes à l'écoute.
You have needs upon your heart too.
Vous avez des besoins sur votre cœur également.
And just like it was at that day,
et tout comme c'était en ce temps, lorsque Abraham allait prendre son fils, je ne sais pas comment c'était, je ne peux pas dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il était prêt à prendre la vie de son fils parce que Dieu lui avait demandé. Et vous savez, c'est comme ça que c'est avec les prophètes de Dieu. Lorsqu'ils disent quelque chose, vous voulez m'expliquer ça et me dire pourquoi?
Non,
je serais probablement mort.
You said so? Amen. That's
tu
what
as dit ça? Parfait, c'est ce que je fais. Amen.
But he got ready to take his son's
mais
life.
Il s'est préparé à enlever la vie à son
just
fils.
Like it that day,
et tout comme en ce jour-là,
stay your hand,
il a dit, garde-toi de le faire, Abraham, parce que je
Amen.
Sais que tu m'aimes.
Let come what may, what go. Does it make a big difference?
Qui arrive, quoi que ce soit, ça ne fait aucune différence. Tu es encore Jéhovah Jireh. Les circonstances n'ont aucune importance pour moi. Tu l'as dit, je le crois.
Amen.
Amen.
Alors,
que ce soit la guérison du cancer, un problème financier, peu importe ce que c'est, écrivez votre chèque. C'est à vous aujourd'hui. Le prophète va prier pour vous. C'est votre attitude. En fonction de ce que vous allez recevoir. Il a prié, nous allons l'entendre et le croire, et vous l'acceptez et sortez par ses portes et amenez-le avec vous. Je le crois. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse ce matin et paix chacun de vous, épouse. C'est un honneur de m'asseoir à la table avec vous. C'est un honneur d'entendre l'ainsi dit le Seigneur avec vous. Et cela va être un grand honneur d'aller dans l'enlèvement.
And it's because he lives.
C'est parce qu'il vit.
Raise your hand to him and
levez
thank
votre main vers lui. Remerciez-le. Je n'ai rien à craindre.
Because he lives. Amen. Son death is gone. Because I know. Yes, I know. Il tient la future and life est worth the living just because he lives. Now let's sing it
chantons-le
right together
ensemble.
Because he lives. Thank you, Lord Jesus.
Merci, Seigneur.
Je n'ai rien à craindre. Thank you, Lord.
Ma vie Seigneur, parce que tu vis, nous pouvons vivre aussi. Notre gracieux Père Céleste, alors qu'on s'incline humblement devant toi, Seigneur, nous sommes si reconnaissants pour cette opportunité, Seigneur, mais que les rachetés se rassemblent ensemble à travers la parole de Dieu. Et nous sommes rassemblés ici, à travers le monde entier, les rachetés se rassemblent autour de cette parole, cette nourriture emmagasinée que tu as pourvue pour nous, Seigneur. Et Seigneur, nous venons dans l'expectative, Seigneur, d'entendre de toi, dans l'expectative de recevoir cette parole dans notre cœur, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants pour ce message et le messager, pour la révélation de cette parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'invitons ta présence parmi nous. Seigneur, pas seulement nous te souhaitons, t'invitons, Seigneur, et nous voulons que tu aies la prééminence. Comme la personne qui t'avait invité à sa maison lorsqu'il était héritier, il ne t'a pas souhaité la bienvenue, et tes pieds n'étaient pas lavés, Seigneur, et tu as été ignoré. Seigneur, nous ne voulons jamais être coupables de cela. Seigneur, nous voulons seulement te donner la prééminence en toutes choses, Seigneur, car nous savons que si ce n'était pas de ta présence ici, ce sera en vain de se réunir, Seigneur. Mais nous avons cette promesse de ta parole, Seigneur, nous savons que nous ne rassemblons pas en vain. Nous avons ta promesse que lorsque deux ou trois seraient réunis en ton nom, et nous sommes bien des fois plus que cela, Seigneur, nous sommes des milliers à travers le monde entier, Seigneur, réunis ensemble en une pensée et un même cœur. Seigneur, nous te donnons seulement la prééminence, Seigneur, d'avoir ta volonté parfaite, Seigneur, dans le service. Seigneur, nous voulons seulement se rassembler autour de cette parole et entendre cette parole et entendre cette voix, Seigneur. Pas seulement la parole, mais nous voulons cette voix qui nous l'apporte, Seigneur. La voix de Dieu, Seigneur, dans le temps de la fin.
Seigneur,
nous nous souvenons des requêtes, Seigneur, et souviens-toi de bien des requêtes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été nommés à travers les gens à l'écoute, Seigneur. Le Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant et tu peux sonder les cœurs, Seigneur. Tu peux voir chaque besoin, chaque désir. Nous savons que tu as déjà payé le prix sur le calvaire, Seigneur. Et comme Frère Branham a dit, quelqu'un qui est ici qui voudrait être guéri, et vous dites que je ne peux pas le faire parce qu'il l'a déjà fait. Et c'est tellement une bénédiction pour chacun de nous d'avoir la foi pour eux. C'est du pain pour les enfants, Seigneur. Du plus profond de notre cœur, nous le réclamons. Chaque personne qui est malade, nous le réclamons, Seigneur. Ceux qui sont découragés, Seigneur, encourage-les et guéris les malades. Donne la force aux faibles et aide-nous tous et réponds à chaque besoin selon ta volonté et ta parole, Seigneur. Nous plaçons chaque besoin entre tes mains, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu étires ton bras, Seigneur, et tu le touches par ta miséricorde, Seigneur, et que tu envoies tes anges à chaque personne, Seigneur. Et Seigneur, comme nous rassemblons ensemble autour de cette parole, Seigneur, nous savons, comme Abraham a vu ce dernier signe avant le Fils promis, Seigneur, Dieu manifesté dans la chair humaine, Seigneur, qui discernait les pensées du cœur. Oh, quel privilège de voir cela! Et aujourd'hui, Seigneur, nous allons être privilégiés de l'entendre sur les bancs de ce message. Avec nos yeux spirituels, nous pouvons voir Dieu manifesté dans la chair humaine, encore une fois, qui discerne les pensées du cœur, que en tant que semence royal d'Abraham, nous recevions ce signe, Seigneur. Bénis chaque personne, nous prions pour chaque personne, Seigneur, qui sont rassemblées ici, Seigneur, que chaque besoin soit rencontré, Seigneur, et nous voulons toujours nous rappeler de notre prophète, Frère Joseph, Seigneur, et pendant qu'il est loin de nous, Seigneur, il nous manque tellement, mais Seigneur, nous sommes si reconnaissants, Seigneur, qu'il puisse être là avec toi, Seigneur, et avoir cette conférence, Seigneur, et communier avec toi, Seigneur, et rechercher la ta volonté pour nous, Seigneur, l'épouse, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, nous prions que tu nous bénisses d'une façon spéciale, Seigneur, que tu renouvelles les forces de son corps et que tu nous le ramènes, rafraîchis, Seigneur, en esprit et dans son corps, Seigneur, et rencontre chacun de ses besoins, Seigneur. Nous remettons ce service, Seigneur, entre tes mains et nous remettons entre tes mains, nous le demandons humblement toutes ces choses dans les précieux noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous asseoir. Je suis reconnaissant. Quelle assurance nous avons. N'êtes-vous pas reconnaissant que sa parole coule dans nos veines, que nous sommes héritiers avec Jésus, que nous sommes nous possédons toutes choses. Loué soit le nom du Seigneur. J'ai tellement apprécié cette série de Jéhovah Jireh et je sais que notre foi a tout été élevée, Seigneur, et que la conduite de Frère Joseph, et je suis si reconnaissant d'être fait partie de la famille de Dieu. Et je suis si heureux de faire partie de la famille de Dieu. J'ai été lavé dans la source et purifié par son sang. Nous sommes héritiers avec Jésus. Alors que nous voyageons dans ce monde, car je fais partie de la famille de Dieu. Êtes-vous heureux? Je suis heureux de faire partie de la famille de Dieu. J'ai été lavé dans la source. Purifié par son sang, nous sommes héritiers avec Jésus, alors que nous voyageons dans ce monde. Je fais partie de la famille, de Dieu. Oh Père, nous sommes si reconnaissants d'être de faire partie de ta famille, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas assez le dire. Merci pour cette parole. Merci pour ce message, Seigneur. Merci, Père. Je demande que tu bénisses ces dîmes et ces offrandes. Pour qu'ils soient utilisés à ton bénéfice, Seigneur. Bénis ton prophète et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si je veux faire partie de la famille de Dieu. J'ai été lavé dans la source, purifié par son sang. Nous sommes héritiers avec Jésus, alors que nous voyageons. Car je fais partie de la famille. Ami de Dieu, j'ai été lavé dans la source, purifié par son sang, héritier avec Jésus.
to travel
by your
side. For I'm
a part of the family,
family,
la famille de Dieu.
And we are heirs of the Father.
Nous sommes héritiers du Père.
Yes, we
nous sommes co-héritiers avec le Fils.
Et de sa fronde. Vous avez entendu l'histoire de Joseph et de ses songes, et de Jonah et de la baleine. Vous avez souvent sauté. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dans la Bible. J'aimerais tous les rencontrer, je le déclare. Petit à petit, le Seigneur nous laissera sûrement les rencontrer à cette rencontre dans les airs. Il y a une rencontre dans les airs, dans le doudou au-delà. Je vous rencontrerai et vous saluerai là-bas, dans cette demeure au-delà du ciel. Des chants comme on n'en a jamais entendu chez les mortels. Ce sera glorieux, je vous le dis. Le Fils de Dieu lui-même se rase à la tête à cette rencontre dans les airs. Il n'y aura aucun douteur, tous les sceptiques seront absents ce jour-là.
Il n'y aura pas de grincheux présents pour nous déranger et les accents seront occupés au loin. Il n'y aura pas de deuil pour les proches égarés, il n'y aura pas de nuit solitaire de supplications en prière. Tous nos fardeaux et notre angoisse seront enlevés à cette rencontre dans les airs. À cette rencontre dans les airs, dans le doux, doux au-delà. Je vous rencontrerai et vous saluerai là-bas, dans cette demeure au-delà du ciel. Des chants comme on n'en a jamais entendu chez les mortels. Ce sera glorieux, je vous le dis. Le Fils de Dieu lui-même sera à la tête à cette rencontre dans les airs. Là, il n'y aura aucun douteur. Tous les sceptiques seront absents ce jour-là. Il n'y aura pas de grincheux présents pour nous déranger. Et les accents seront occupés au loin. Là, les saints auront son sceau sur leur front, vêtus de vêtements que seuls les rachetés peuvent porter. Tous ceux qui ont l'habit de mariage seront présents à cette rencontre dans les airs. Oui, il y aura une rencontre dans les airs, dans le doux doux au-delà. Je vous rencontrerai et vous saluerai là-bas. Dans cette demeure au-delà du ciel, des chants comme on n'en a jamais entendu chez les mortels. Ce sera glorieux, je vous le dis. Le Fils de Dieu lui-même sera à la tête à cette rencontre dans les airs. Tapons-le demain maintenant. Regardez à gauche et à droite. Il va y avoir une rencontre dans les airs. Encore une fois, il y a une rencontre dans les airs, dans le doux doux au-delà. Je vous rencontrerai et vous saluerai là-bas, dans cette demeure au-delà du ciel. Des chants comme on n'en a jamais entendu chez les mortels, ce sera glorieux, je vous le dis. Le Fils de Dieu lui-même sera à la tête, à cette rencontre dans les airs. Loué soit le nom du Seigneur. Vraiment, cela se représente tellement pour nous, c'est tellement une réalité. Vous savez, c'est sur le point d'arriver. Juste d'entendre ces messages, Jéhovah Jireh, il est mon pourvoyeur. Dieu peut faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Croyez-vous cela?
Dieu peut faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut.
Inclinons la tête. Mettons nos pensées sur Dieu maintenant. Nous voyons loin. Nous voyons Elohim venir loin. Pensons à cela. Pensons à rentrer dans sa présence maintenant et d'entendre cette voix nous parler. Celui qui a changé Abraham.
Not six letters, but seven.
Celui qui n'avait pas six lettres, mais sept.
The one that said these words.
Celui qui a dit ces paroles. Citation.
Now we notice.
Maintenant, nous,
God's last sign to
nous avons vu le dernier signe.
Was God,
littéralement, the word. C'était Dieu, la parole.
Remember,
souvenez-vous,
God,
Dieu,
the promised word,
la parole
that had
promise,
been promised him all along,
qui avait la promesse tout au long, lui a parlé. En chair humaine, un homme se tenait là, il lui parlait, discernait les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah, et elle derrière lui, dans la tente. C'était le dernier signe. Fin de la citation. Merci Seigneur. Nous croyons ton prophète, Jésus. Tu l'as envoyé, tu l'as confirmé.
We believe it.
Nous le croyons.
You're Hebrews 13:8.
Voici Hébreux 13:8. Merci Seigneur.
Praise the name of the Lord.
Loué soit le nom du Seigneur.
Let us sing it.
Chantons-le.
Oh,
Seigneur,
praise the name of the Lord.
Loué
soit le nom du Seigneur. Inclinons nos têtes maintenant alors que nous remettons ce service à notre pasteur, notre serviteur et prophète de Dieu, messager. Alors que Frère Adam va prier pour nous, restez debout.
Inclinons la tête un instant pour prier.
Il appela le nom de ce lieu Jéhovah Jireh, comme on le voit en la montagne de l'Éternel jusqu'à ce jour. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce soir d'avoir ce privilège de nous assembler au nom du Seigneur Jésus afin de l'adorer par l'esprit de sa résurrection. Et nous te sommes si reconnaissants pour ce que tu as déjà accompli pour nous en manifestant ton identité parmi nous, par la parole et par la résurrection. Et nous fondons de très grands espoirs, Seigneur, parce que nous savons que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu historique, mais un Dieu au temps présent, celui qui est ressuscité des morts et qui a prouvé qu'il est le Dieu qui était avec Moïse et avec Abraham et tous les apôtres et qui est toujours le même Dieu. Alors nous joignons notre voix à celle d'Eddie Perronnet qui a dit « Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice ». Donc nous te remercions pour ce grand réconfort et cette grande consolation que nous avons. Père, ce soir, s'il se trouvait ici parmi nous, ce soir, quelqu'un qui n'ait pas cette grande espérance, que ce soit l'heure où cette grande vérité éternelle lui sera révélée. Père, où les gens reconnaîtront que la raison pour laquelle ils sont ici sur terre, ce n'est pas seulement afin de travailler, c'est l'une des raisons, bien sûr, mais la raison principale, c'est afin de devenir un fils ou une fille de Dieu. Puisse cela être accompli ce soir. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous maintenant alors que nous aurons communion autour de ta parole. Ta parole est la vérité. Que le grand Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et nous la dissipant selon nos besoins, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir. Merci pour cette occasion de revenir encore ce soir pour vous présenter de nouveau à vous, braves gens, ce glorieux évangile. Nous avons annoncé que pour ce qui est de l'école du dimanche de demain matin, là, les pasteurs qui collaborent tiendront ensemble le service de l'école du dimanche. Ensemble, ici même. Je trouve que c'est vraiment bien. Et beaucoup d'entre eux ont pris les sièges de leur église et les ont apportés ici pour les gens. Et c'est vraiment un très beau geste de la part de ces gens de faire une telle chose. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le beau temps qu'il nous a donné. Les prévisions nous annonçaient tout le temps des orages et tout, mais il a retenu les orages et nous n'avons pas eu le moindre problème. Nous en sommes reconnaissants. Et maintenant, cette soirée devait être consacrée à... Jusqu'ici, nous sommes limités à de simples services d'évangélisation. Et s'il y a des nouveaux venus parmi nous, nous n'avons pas beaucoup insisté sur le fait que les pécheurs doivent venir à Christ. Et j'ai pris un sujet jeudi soir dernier, mais je n'y suis pas encore arrivé. Nous avons juste parlé d'Abraham et nous ne sommes pas encore arrivés à mon sujet. Jéhovah Jireh. Alors, nous tentons de finir ça ce soir. Et nous mettons notre confiance dans le Seigneur qu'il sauvera chaque personne qui n'est pas sauvée et qu'il remplira tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ce soir. Maintenant, réfléchissez bien pendant que nous sommes là. Et pendant que nous parlons, ouvrez votre cœur pour que le Saint-Esprit puisse vous parler intérieurement. Après tout, qu'est-ce que nous faisons ici? Méditez là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que votre vie a été? Dans quel but êtes-vous ici? Est-ce que dans votre état actuel, Dieu peut obtenir de vous tout ce que pourquoi il vous a placé ici? Sinon, alors, réglons ça ce soir, mes amis. J'ai quelques amis de mon église qui sont présents ici quelque part. Je sais qu'il y a un des administrateurs et deux ou trois frères. Je viens de reconnaître une nouvelle famille, les Palmer, qui sont ici ce soir. Ils sont de quelque part par ici. Ils font plusieurs centaines de kilomètres en voiture tous les dimanches quand je prêche là-bas dans l'Indiana. Et M. Welch Evans et sa famille sont ici quelque part. Je ne sais pas où. Juste aujourd'hui, j'ai passé presque toute la journée à étudier. J'entendais leur voix là-bas, dehors. Alors, je savais qu'il était ici quelque part. Maintenant, demain à 14h demain, tout le service de demain après-midi sera consacré aux malades, à la prière pour les malades. Bon, beaucoup de gens appellent ça un service de guérison. Eh bien, nous n'aimons pas vraiment appeler ça comme ça. En effet, appelons ça un service de foi. Alors, si notre foi peut être à la hauteur, après qu'il a manifesté son identité parmi nous, lui qui sait tout ce qu'il y a dans notre cœur et qui nous a prouvé, voyez, il a prouvé qu'il est vivant et il l'a confirmé par l'Écriture. Avez-vous remarqué qu'il a confirmé chaque parole par sa présence vivante? Voyez, voilà, ça montre qu'il n'y a pas lieu de penser que nous cherchons à avancer quelque chose qui tient du mythe. Ce que cette Bible a promis, c'est ça qui est la vérité, voyez. Et chaque parole est vraie. Or, je n'ai peut-être pas assez de foi pour faire agir chaque parole qu'elle contient, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a la foi qu'il faut. Enoch a eu assez de foi un jour pour faire une petite promenade avec Dieu un après-midi, et il a simplement continué à marcher, il est monté à la maison sans mourir. Or, voilà, à mon avis, ce à quoi doit arriver l'Église, à une foi qui produit un enlèvement. Pour l'instant, je n'ai peut-être pas cette foi-là, mais c'est sûr que je ne ferai pas obstacle à quelqu'un qui l'a, cette foi. Donc, nous avons confiance que Dieu nous donnera une grande foi, et que demain, il ne restera plus une seule personne faible dans ce bâtiment, après que les gens seront venus pour qu'on prie pour eux. Voilà ce que nous allons croire. Et alors, si nous le croyons, et ça, je l'ai vu tant de fois, il m'est déjà arrivé de voir 25 000, pensez-y, là, pas 2500, mais 25 000 guérisons extraordinaires se produire après une seule prière à Durban, en Afrique du Sud. Ils ont rempli je ne sais plus combien de grands camions, deux de ces camions pourraient contenir tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'on y a mis. Ces grands camions britanniques à 6 ou 8 roues, et comme ça, et l'un derrière l'autre, ces camions défilaient chargés de bâtons et de chaises roulantes, ou de ce qu'eux appellent les chaises roulantes, des petites choses dont ils se servent pour transporter les malades. Ils leur font traverser la jungle, et lorsqu'un lion les poursuit, ils grimpent à un arbre en les portant, puis ils continuent leur route pour venir à la réunion, et puis de voir juste là, sur l'estrade, un garçon. La première personne qui est venue sur l'estrade, c'était une femme. Elle portait la marque des Mahométans, le point rouge entre les yeux, et je lui ai demandé si elle parlait anglais, et elle a dit « juste un peu ». J'ai dit « je vois que vous êtes Mahométane ». Elle a dit « oui ». J'ai dit « pourquoi venez-vous vers moi qui suis chrétien? Pourquoi n'allez-vous pas voir votre prêtre? » Elle a dit « je crois que vous pouvez m'aider ». J'ai dit « eh bien, je ne peux vous aider que si vous croyez en Jésus-Christ ». Et elle a dit « eh bien, j'ai vu les services ». Je n'étais là que depuis 3 jours. Déjà, nous avions environ presque 200 000 personnes dans l'assistance là-bas. Donc, on avait mis des barrières pour séparer les gens parce qu'ils avaient aussi des guerres entre les tribus. J'ai dit, bon, eh bien, il faut que vous croyiez en Jésus-Christ. Et j'ai dit, avez-vous déjà lu le Nouveau Testament? Elle a dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez pensé du message que je viens d'apporter où j'ai déclaré qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Elle a dit, je le crois. Et j'ai dit, dans ce cas, si le Seigneur Jésus est vivant aujourd'hui, il vous a déjà guéri par sa souffrance, c'est déjà accompli. Mais vous, faut avoir la foi. Et s'il était ici, il saurait qui vous êtes. Il saurait ce que vous avez fait. Il saurait tout sur vous. Vous croyez cela? Elle a dit, oui, monsieur. J'ai dit, s'il le révèle, croirez-vous qu'il, dans ce cas, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est ici en ce moment, toujours vivant, que son esprit est en moi et avec ses autres chrétiens? Elle a dit, je le crois. J'ai dit, la raison pour laquelle vous êtes ici, votre mari est un homme court et trapu. Il a une moustache noire. Il y a 2 semaines, vous êtes allé chez le médecin. Voici votre nom. Je ne pouvais pas l'écrire. Je ne pouvais pas le prononcer. Il a fallu que je l'appelle. C'était un nom mahométain. Elle a dit, c'est exact. J'ai dit, alors, et votre mari a attendu dans le couloir. Il portait un complet gris et un chapeau brun clair. J'ai dit, le médecin était un assez grand, mince. Il avait de grosses lunettes à monture d'écaille. Il vous a fait un examen gynécologique et il vous a découvert un kyste sur un ovaire. Elle a dit, c'est la vérité. J'ai dit, vous acceptez Jésus comme votre sauveur? Elle a dit, que Jésus-Christ soit mon sauveur. Le suivant, c'est un petit garçon qui louchait. Il laissait les missionnaires aller chercher seulement 1 ou 2 personnes de chaque tribu. On n'arrivait pas à retenir les gens. Il n'y avait absolument aucun moyen. Alors, il avait posté là des centaines et des centaines d'officiers de la milice qui essayaient de les retenir. Ils n'y arrivaient pas. Et donc, ce petit garçon qui louchait, ils l'ont placé sur l'estrade, à peu près à cette distance-là. Et sur l'estrade, il y avait d'énormes liscalas. Les sœurs ici, vous qui aimez les fleurs, les liscalas là-bas, certains d'entre eux ont 18 pouces de diamètre, jaune, blanc, magnifique. Ils en avaient là, ils poussent à l'état sauvage. Ils en avaient déposé des bouquets là-haut. J'étais en train de parler. Ils ont placé le petit garçon sur l'estrade. Le missionnaire l'a placé sur l'estrade. Et le petit louchait. Il venait de terminer son dîner. Parfois, leur régime alimentaire est très bizarre. qu'il prenne un petit piquant, qu'il pique dans la veine d'une vache et il la laisse couler ça dans ce qu'ils appellent un seau. C'est un petit sac des peaux cousues ensemble et il laisse le sang chaud couler là-dedans. Ensuite, il tire un peu de lait qu'ils ajoutent à ça et ils barattent le tout et le résultat est une délicieuse sucette. Tu n'en voudrais pas une comme celle-là, n'est-ce pas mon chou? Non, alors ça, mais lui, c'est ce qu'il avait mangé. Le petit louchet. J'ai dit, bon, n'importe qui peut reconnaître ce qui ne va pas chez cet enfant et il louche. Si je pouvais aider ce petit, j'ai dit certainement que je le ferais. Je ne peux pas l'aider, pas plus que n'importe qui d'autre. J'ai dit, si un médecin pouvait l'aider, eh bien, s'il refusait de le faire, alors ce serait un mal grave dans le cœur de ce médecin. S'il pouvait l'aider, j'ai dit, je ne pense pas qu'il ait aucun moyen de le faire en ce moment. J'ai dit, mais maintenant, le Seigneur peut me révéler ces choses au sujet de ce petit. Et là, il a dit, ce petit, son père et sa mère sont tous les deux maigres. Elle était Zoulou et eux, d'habitude, ils sont costauds. J'ai dit, les voici assis juste là en ce moment. Ils s'appellent un tel. Et alors, j'ai dit, le petit louchait à sa naissance. En effet, la mère, ils sont de foi chrétienne parce qu'à l'intérieur de la petite hutte de chaume, il y a une image de Christ accrochée à droite au mur. Et j'ai dit, le petit, dès que la mère a montré le petit au père, il louchait. Le père et la mère se sont levés pour confirmer que c'était exact. Je me suis retourné pour regarder le petit. Il avait le regard aussi droit que le mien. Alors, j'ai dit, maintenant, vous voyez le Seigneur? J'ai dit, moi, je n'ai pas été à moins de 10 pieds du petit. Le petit est guéri. Et ils l'ont fait avancer. J'ai fait revenir le suivant. Et à ce moment-là, j'ai entendu une rumeur ménage. Le Dr. Bosworth et Ern Baxter, les organisateurs de cette série de réunions, étaient engagés dans une vive discussion avec quelqu'un. Il y avait tout un rumeur ménage. Un homme essayait de montrer sur l'estrade. On cherchait à venir. Il y avait plusieurs docteurs en médecine présents. Alors, ce docteur en médecine, il a dit, je veux lui parler au sujet du petit. Je me suis retourné. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il a dit, comment savez-vous que je suis docteur? J'ai dit, vous êtes docteur. Vous avez grandi en Angleterre. Vous êtes un docteur britannique. Je lui ai dit où il avait fait ses études. Bon, M. Branham, je peux concevoir que par télépathie mentale, on puisse lire dans mes pensées. J'ai dit, je ne lis pas dans vos pensées, docteur, mais ce que je ne peux pas concevoir, il a dit, je crois que Dieu existe et je sais que je lis là-bas, ne peut pas vivre sans Dieu, il a dit, parce qu'il y a une vie dedans. Mais Dieu est-il tangible? J'ai mis ce petit sur le stade, je l'ai examiné juste là et il louchait. Et maintenant, voici le petit, il la regarde droit. Qu'est-ce qui a produit cet effet? M. Branham, j'ai dit, Jésus-Christ. Il a dit, mais bon, écoutez, il a dit, je crois en Dieu. Il a dit, mais je veux vous poser une question à vous qui êtes ministre, là. Avez-vous hypnotisé ce petit? J'ai dit, monsieur, vous n'allez pas me dire que l'Association médicale britannique vous permet d'exercer la médecine alors que votre connaissance de l'hypnotisme est à ce point limitée? Si l'hypnotisme peut redresser les yeux des petits, vous devriez pratiquer l'hypnotisme. Vous voyez? Il a dit, eh bien, dites-moi ce qui a produit cet effet. J'ai dit, Jésus-Christ. Il a dit, je crois. J'ai dit que Dieu est dans ce liste. M. Marshall a dit, allons, vous allez déclencher une émeute ici. Parce qu'entre eux aussi, il y avait une ségrégation. Vous savez, donc j'ai dit, en plus des guerres entre les tribus, j'ai dit, vous allez déclencher une émeute, là, ne faites pas ça. J'ai dit, vous consacrez trop de temps en cas de ce petit. J'ai dit, voyez ce que vous devez faire. Ce petit était là. C'est vous qui l'avez placé sur la strade. C'est sa propre foi et la foi de sa mère à cause de ce que lui a été dit qui a guéri ce petit. Là-bas, il louchait. Il n'a jamais touché. Il n'est pas venu vers moi ni rien. J'ai été à peine jeté un coup d'œil et vu ce petit, je me suis tourné en direction de l'Assemblée. Et je me suis retourné. Le petit avait le regard bien droit. Il s'est approché de ce gros microphone à grille. Il a dit, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Au moment où je quittais Durban, d'un bond, il a franchi la barrière. Il y avait plusieurs milliers de personnes, entre 10 et 20 000 personnes venues me dire au revoir. Et je quittais non pas Durban, Johannesburg. D'un bond, il a sorti de la foule. Il m'a saisi par la taille comme ceci. Il m'a annoncé qu'il avait abandonné sa pratique dans la ville pour se tourner vers les champs de mission comme médecin missionnaire auprès du peuple. Et pendant qu'il me parlait, il s'est mis à parler en d'autres langues en me parlant. C'est vrai, un docteur en médecine, anglican. Le suivant, là, c'était un petit garçon ou un jeune homme. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails. Il était obligé de marcher à quatre pattes comme on lui avait passé une chaîne autour du cou, comme un chien. Et j'ai dit, oh, le pauvre, si quelqu'un pouvait l'aider et refusait de le faire, ce serait une personne au cœur très cruel. J'ai dit, évidemment, moi, je ne peux pas le guérir. Tout le monde le sait. Je ne peux pas le guérir. Je ne peux dire que si le Seigneur veut bien me le montrer, ce qui est arrivé ou ce qui a provoqué cela, ou quelque chose comme ça, parce que la guérison a déjà été acquise. Maintenant, quand je voudrais que vous qui êtes malade ici, vous preniez conscience de cela. La guérison a déjà été acquise. Vous êtes déjà guéri. Il y a un manque de foi, c'est tout. Tout est possible à ceux qui croient. Maintenant, vous devez le croire, c'est tout. Et donc, nous avons vu que ce petit, ce jeune homme-là, j'ai dit, amenez-le ici. On l'a mené au bout d'une chaîne. Et la pensée, c'est que parfois, les tribus cherchent à faire des bouffonneries pour les touristes et ils exécutent une petite danse. Vous savez, une petite danse tribale pour recevoir quelques pièces de monnaie de la main des touristes. Et il a pensé que je voulais qu'il exécute une danse. Ce garçon n'avait même pas toute sa tête. Et oui, je ne peux pas le dire dans cette histoire mixte, c'est qu'il ne porte pas de vêtements. Vous savez, là-bas, les femmes et les hommes, ils sont nus. Peut-être un petit pingue ou quelque chose comme ça, mais lui, il était à quatre pattes et c'était vraiment affreux. Et donc, on le tenait en laisse au bout de cette chaîne comme ça et on l'a amené. On lui avait passé ça autour du cou. Il essayait à Baba. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas ce que je voulais. Interprète Zulu, j'ai dit maintenant, dites ces paroles. Dites-lui de rester tranquille et de croire simplement. Il a levé les yeux vers moi comme ça. Et j'ai dit maintenant, ce garçon, il est dans cet état depuis son tout jeune âge. J'ai dit en fait, ce à quoi il pense en ce moment, c'est à son frère. Son frère était monté à dos d'un chien jaune ou bien d'une chèvre. Et il a été désarçonné. Et j'ai dit, il est devenu infirme. Il marche à l'aide de deux bâtons. J'ai dit, maintenant, je vois que le jeune homme est guéri et il a jeté ses béquilles. Et à ce moment-là, il a fallu 20 minutes pour calmer les gens. Le garçon était à une distance d'environ 3 pâtés de maison de là, dans cette direction. Le voilà qui arrive en tenant ses bâtons en l'air. Il courait à toute vitesse. Il avait été guéri tout là-bas au moment où l'interprète Zulu, 15 interprètes différents, se tenaient là. On disait une parole et il fallait attendre que cela ait été transmis par ses interprètes. Le voilà qui arrive avec les bâtons au-dessus de la tête comme ça. Il avait été guéri. Et alors, j'ai tourné le regard. J'ai alors remarqué de nouveau. Je le regardais, je l'ai vu debout. C'est la vision. Rien ne peut arrêter ça. Non, là, c'est déjà accompli, vous voyez. Elle n'attend que la parole. Maintenant, regardez. Lundi qui vient, j'aurai 55 ans. Ce sera mon anniversaire. Et j'ai des visions depuis mon enfance. Je n'ai jamais vu une seule d'entre elles faillir. Et je demande à n'importe qui de me dire si quelqu'un en a déjà vu une seule qui a été prononcée et qui a failli. Cela ne peut pas faillir, c'est Dieu. Et donc, j'ai vu cela. Alors, je me suis dit, voilà ma chance de faire mon appel à l'autel. Je l'ai vu debout. J'ai su qu'il allait être guéri à l'instant parce que, vous voyez, cela avait déjà été montré. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est ce que dit la vision. C'est ce que dit l'exacte vérité. Combien savent que ces choses sont vraies? Ça, pour que les nouveaux venus le voient, elles sont vraies. Jamais elles ne faillissent. Dieu en a toujours confirmé l'exactitude. Je me suis dit, c'est le moment propice pour mon appel à l'autel. Je dis, bon, ce garçon qui est ici, je ne peux pas le guérir. Mais si la puissance de Dieu m'a montré une vision, alors il va maintenant être guéri. Et s'il n'est pas guéri, alors je suis un faux prophète. Par contre, s'il est guéri, combien d'entre vous dans l'auditoire accepteront Christ comme leur sauveur personnel? Il y avait, je pense, 10 000 mahométans. Quelques jours plus tôt, j'avais discuté avec un intellectuel. Il disait, ce trophée béni, vous savez, ces gens descendent des Médès et des Perses. D'autres fois, ils ne changent pas, ils ne se modifient en rien. On ne peut pas changer un seul de ces gars-là. Et alors, il était là, présent, une des femmes mahométanes venait d'accepter Christ, ce qui avait produit une influence sur eux. Et le fils de Mahatma Gandhi était présent. Donc, il y avait là ce garçon. Alors, j'ai dit, lève-toi sur tes pieds, Jésus-Christ te guérit. Eh bien, il essayait toujours de faire comme ça. Je me suis approché, j'ai pris la chaîne dans ma main. J'ai dit, lève-toi, Jésus-Christ te guérit. Maintenant, voici la Bible. Et alors, si vous savez ce qui est arrivé au cours de ces dernières soirées, jamais je n'aviserai de dire ici quelque chose qui soit faux. Ce garçon était là, dans cet état d'affliction. Il marchait ainsi, le dos exagérément creusé comme un cheval encelé. Ses mains étaient aussi calleuses que ses pieds à force d'avoir marché ainsi. Pour la première fois de sa vie, il s'est levé sur ses pieds. Les larmes coulaient sur son ventre noir comme ça. C'est comme si elles glissaient. Non seulement il était guéri, mais il avait toute sa raison. Vous voyez? J'ai constaté, j'ai dit maintenant que tous ceux d'entre vous qui veulent croire, croient maintenant pendant que je prierai. Je voudrais savoir combien de personnes ici, j'ai dit, veulent accepter Christ comme leur sauveur. On aurait dit un océan. Ils ont dénombré 30 000 indigènes à couverture qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, qui sont venus à Christ. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, je parlais chez les Kiwanis et je me rappelle l'homme qui m'avait ordonné dans l'église baptiste missionnaire qui s'était toujours moqué. J'ai dit, ce que vous appelez du fanatisme, vous voyez, a gagné plus d'âmes à Christ en une seule heure que les dizaines de milliers de dollars que l'église baptiste a consacrés aux missionnaires là-bas. Nous avons trouvé dans quel état? Là-bas, identifié comme chrétien par une étiquette comme ceci et portant une idole sous le bras. C'est Amoya. Amoya signifie une force invisible, comme le vent. Si Zéchou Ceci n'échouera pas. Voilà la solidité de la chose. Et j'ai vu là 30 000 indigènes à couverture donner leur vie à Christ. Ils retournent ensuite vers les tribus à l'intérieur du pays, gagner leurs autres amis à Christ. Et j'ai fait une seule prière pour tout le groupe. Et environ 4 heures plus tard, Sidney Smith, maire de Durban, en Afrique du Sud, m'a téléphoné. C'est qu'une femme était morte la nuit d'avant et on m'avait demandé de prier et elle était à la réunion en vie. Et donc, comme c'était une parente de Sidney Smith, il était transporté de joie. Et alors, à ce moment-là, il a dit, « Allez à la fenêtre et regardez ce qui va passer dans la rue. » Et de gros camions sont arrivés remplis de choses empilées. Et les indigènes qui avaient été sur ces lits de camp et ces civières ce matin-là, ils marchaient derrière, les mains en l'air, en pleurant, ils chantaient dans leur langue maternelle, « Crois seulement, tout est possible. » Il n'y avait plus de guerre entre eux, rangée après rangée, ils défilaient là. Les camions passaient comme ça avec les escortes de police et les pousse-pousse devaient se faufiler partout comme ça, « Crois seulement. » Maintenant, si des indigènes à couverture qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche peuvent accepter cela, qu'en est-il de nous? Voyez? Vous savez pourquoi? Eux, on n'a jamais farci la cervelle d'aucune doctrine. Voyez? Nous, on a reçu tout le monde. Le docteur Intel qui dit c'est du fanatisme, cet autre qui dit c'est de la télépathie, celui qui dit il n'y a rien de vrai là-dedans, celui qui dit c'est un démon. On ne sait pas croire. C'est pour ça que c'est difficile. L'endroit où il est le plus difficile de faire des réunions de guérison, c'est aux États-Unis. C'est vrai. Là-bas, ils ne savent rien de ces choses. Ils n'ont rien entendu. On leur en parle. Ils sont comme des enfants. Ils l'acceptent et ils y croient. Ils les voient la partie. Que le Seigneur nous aide maintenant. Maintenant, prenons encore un moment pour prier. Nous ne pouvons pas trop prier, car c'est un fait. La Bible dit, « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. » Reçois-nous, Seigneur, dans la communion avec toi, ici, alors que nous nous remettons à toi, la communion de ta parole, car tu es la parole. Nous te demandons au nom de Jésus, parle au cœur. Amen. Nous avons laissé Abraham hier soir. Pour commencer, nous l'avons vu au chapitre 22 de la Genèse, où il offrait son fils unique, un type de Dieu qui a donné son fils. C'est là que nous avons commencé, puis nous sommes retournés en arrière pour le revoir sa vie, et nous ne sommes pas encore détachés de cela. Nous l'avons laissé hier soir vers le chapitre 16 ou 17. Je crois que c'est au chapitre 15 que nous l'avons laissé, et nous l'avons essayé de finir ce soir, parce que j'ai prévu un message qui ne traitera que de la guérison divine pour demain après-midi, si le Seigneur le veut. Et maintenant, tous les pasteurs sont invités. Amenez votre assemblée. Venez tous vous tenir ici avec eux pour prier. Maintenant, nous comprenons que parfois Jésus faisait des choses et qu'il fait parfois des choses. Vous dites, mais pourquoi donc permettrait-il ces choses, frère Branham? Pourquoi permettrait-il que ces choses arrivent? Parfois, c'est fait dans le but d'éprouver votre foi. Souvent, il fait des choses étranges. Pourquoi est-ce qu'il ne s'avance pas tout simplement en disant « Je suis ceci, je suis cela » Ce n'est pas ce qu'il a fait dès le départ. Voyez, il fait ça dans le but d'éprouver votre foi. Regardez, les sacrificateurs pensaient qu'il descendrait probablement parler à Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Mais comment est-il né? Dans une crèche. Il a été rejeté carrément par son propre peuple et par les dénominations de son époque. Or, nous voyons qu'une fois, Jésus parlait. J'aimerais juste examiner ici une petite citation dont j'aimerais faire mention. Jésus était entouré d'une grande foule qui était, semble-t-il, trop nombreuse. Alors regardez ce qu'il a dit. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie. » Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'un médecin ou n'importe quelle personne intellectuelle aurait pensé en entendant dire qu'un homme qui passait pour être un enfant illégitime et qui était considéré plutôt comme un renégat par les gens de cette époque s'était levé et avait cité une chose pareille, « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, eh bien, il aurait dit, cet homme est un vampire humain. Mais voyons, boire le sang d'un homme et manger sa chair, vous de l'Assemblée, éloignez-vous de cette espèce de fou. » Il ne l'a jamais expliqué. Il ne l'a jamais expliqué. Il ne l'avait pas à l'expliquer, c'est vrai. Il voulait juste voir quelle sorte de foi ils avaient. Vous voyez, c'est que vous, si vous croyez, peu importe ce qui que ce soit peut dire. Si je priais pour 5 000 personnes ce soir, et que ces 5 000 personnes mourraient toutes ce soir, demain matin, je prierai encore pour les malades, vous voyez. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit, et non ce que les gens font, vous voyez. Et Dieu, il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oui, eh bien, ces gens, ce groupe d'intellectuels, mais ils ont dit, éloignez-vous de cet homme, il est fou. C'est un barbare, voyons. C'est un vampire humain. Manger le corps de cet homme, or, il ne l'a jamais expliqué. Maintenant, il avait avec lui 70 prédicateurs qui avaient été ordonnés. Il trouvait qu'il avait là une foule un peu trop nombreuse. Et alors, la foule l'a quitté. Donc, il y avait là des ministres qui avaient été ordonnés. Ceux qui avaient envoyé les 70, il a dit, « Que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il vient? » Or, il ne l'a jamais expliqué. Et ses prédicateurs ont dit, « Cet homme monter au ciel d'où il vient? » Mais nous le connaissons. Nous connaissons sa mère. Nous sommes allés à l'étable où il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Nous pêchons avec lui. Nous nous étendons ici sur le rivage avec lui. Et ce Fils de l'homme, monté là-haut, d'où il vient? Il vient de Bethléem. Où ça a monté? Ça, c'est trop fort pour nous. Et ils l'ont quitté. Et il ne l'a jamais expliqué. Jamais. Il n'avait pas à expliquer quoi que ce soit. Dieu n'a pas expliqué quoi que ce soit. Il est Dieu. Il l'a fait tout simplement parce qu'il l'a promis. Il ne l'explique pas. Là, il ne restait plus que ses 12. Il s'est retourné et les a regardés en disant, « Je vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il a dit, « Vous aussi, vous en allez? » Alors Pierre a prononcé cette parole remarquable, « À qui irions-nous, Seigneur? » Car nous sommes sûrs que tu as la parole de la vie. Il l'avait vu si clairement confirmé. Quoi que les sacrificateurs aient pu dire, quoi que n'importe qui d'autre ait pu dire, tout de suite, ils l'ont su qu'il avait la parole de la vie. Il a dit, tu as la parole de la vie. Et alors, nous remarquons que quoi que les autres aient pu faire, bien qu'ils se soient retirés, mais les disciples, eux, étaient prédestinés, ils étaient destinés à la vie éternelle. Non, ils ne pouvaient pas l'expliquer, ils ne pouvaient pas l'expliquer, pas plus que les autres ne l'avaient pu, mais il y avait quelque chose en eux. Cette représentation dans le ciel, une pensée que Dieu avait à leur sujet avant la fondation du monde, s'était maintenant manifestée. Ils avaient un lien avec Dieu. Ils étaient sûrs que c'était là, la promesse de Dieu confirmée. Rien n'allait les faire démordre de cela. Voilà le vrai, l'authentique christianisme. Aujourd'hui, les gens sont un peu comme à l'époque où les disciples naviguaient sur l'océan. Une nuit, une tempête s'est levée, il n'y avait plus rien, plus aucun espoir de survie. Et ils l'ont vu venir marchant sur les eaux. Leur barque était maintenant remplie d'eau, les voiles étaient déchirées, les rames, il n'y avait plus. Ils s'agrippaient les uns sur les autres en poussant des cris et en regardant au loin. Ils l'ont vu venir marchant sur les eaux. Ils ont eu peur de lui, leur seul espoir. Ils ont eu peur de la chose qui pouvait les sauver. Là encore, voilà une image bien réelle d'aujourd'hui. Ils trouvaient que c'était fantomatique. Vous savez, ils disaient dans leur frayeur, ils poussaient des cris, « C'est un fantôme! » C'était comme trop spirituel, c'est la même chose aujourd'hui. Mais si seulement vous faisiez ce qu'eux ont fait, lorsqu'ils se sont écriés, ils ont entendu cette voix retentir, « Ne craignez point, c'est moi, n'ayez pas peur, prenez courage. » Et si seulement vous regardiez à la parole de la promesse pour aujourd'hui, vous entendriez cette même voix vous parler dans la parole, « C'est moi, j'ai promis que je ferai ceci dans les derniers jours. Ne craignez point, n'ayez pas peur, mettez votre confiance en moi, le Fils de Dieu, qui il est, croyez-le maintenant. » Nous avons laissé Abraham en présence d'Élohim hier soir, alors qu'il... Nous avons suivi son parcours au fil des promesses, et maintenant, la dernière promesse avant la venue du Fils, nous avons vu qu'un homme est arrivé, il était habillé comme un homme, il mangeait comme un homme, il parlait comme un homme. Abraham l'a regardé et l'a appelé Elohim. Elohim. Deux hommes étaient descendus à Sodome pour prêcher là-bas. Et nous avons comparé cette situation-là à celle d'aujourd'hui. Vous vous rappelez le récit où nous sommes arrêtés. C'est parfaitement la même chose que Jésus avait prédit qu'il arriverait là. Ce qui arriverait au jour de Sodome, on se retrouve avec la même chose, la même situation ce soir. Aujourd'hui, si j'étais assis là et je songeais à toutes ces choses, les gens ont appris qu'un autre tremblement de terre a eu lieu là-bas. Ils ont dit « Les pays sont de nouveau ébranlés ». Et j'ai pensé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est arrivé le Vendredi Saint. Vous savez, il y a 1900 ans, le Vendredi Saint, l'Église a rejeté Jésus-Christ et un tremblement de terre a ébranlé le monde entier et elles l'ont de nouveau rejeté dans l'âge de Laodicée, comme la Bible avait dit qu'elle le ferait. Elles l'ont mis dehors. Dans ce mouvement œcuménique du Conseil des Églises, c'est exactement ce qu'elles font. Elles renoncent à tout leur enseignement évangélique et tout ça. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Eh bien, on ne peut pas. Ça ne passera pas. Pas avec les vrais, authentiques chrétiens. Jamais ils ne recevront cela. Non, monsieur, un chrétien de nouveau ne se laissera jamais prendre au piège pareil. C'est comme de mettre un canard dans une cage. On sait qu'il se dirige vers l'abattoir. Vous ne l'entraînerez jamais là-dedans. Donc, nous, un vrai chrétien né de nouveau, ça tiendra loin de cela. Donc, Abraham était là, en train de parler à un homme qui avait le dos tourné à la tente dans laquelle se trouvait Sarah. Et Abraham, le nom d'Abraham, un jour ou deux plus tôt, était Abraham et Saraï. Maintenant, c'est Sarah pour Abraham. Et il a appelé Abraham par son nom de père, de sacrificateur. Abraham, où est Sarah, princesse, ta femme? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter selon la promesse à la période de la vie. Autrement dit, dans un mois, je vais te visiter comme je l'ai promis. Il y avait maintenant 25 ans qu'il attendait cet enfant promis. Sans douter par incrédulité au sujet de la parole de Dieu, mais fortifié, donnant gloire à Dieu. Regardez bien ceci maintenant. Et alors, Sarah, à l'intérieur de la tente, dans le langage de la rue, on dirait qu'elle a ri par en dessous, quoi qu'elle a dit. Moi, une vieille femme âgée de 90 ans, j'aurais encore du plaisir avec mon Seigneur, mon mari, là, lui qui a 100 ans. Leur relation conjugale avait cessé depuis bien, bien des années. Et cet homme qui avait le dos tourné à la tente a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle mis cela en question en disant ces choses dans son cœur? » Vous voyez? Et c'est comme ça qu'Abraham a reconnu qui était celui qui lui parlait. C'était Elohim, exactement. Son signe a prouvé que son affirmation était vraie. Il avait dit, « Je te visiterai. » Pourquoi avait-il dit « je »? Comment se fait-il qu'il l'ait appelé Abraham? C'est que c'est que lui qui lui avait donné ce nom, sous forme de symbole. Il n'était pas en présence d'un homme. Il montrait exactement ce qui se produirait. Il lui a donné son autorité confirmée et la parole promise, car cet homme qui lui parlait était bien Dieu, Elohim. Maintenant, nous voyons dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12, et je l'ai cité deux fois déjà au cours des deux ou trois dernières soirées, que la Bible dit, « La parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur, les secrets du cœur. » Et quand Jésus a pu regarder l'assistance et discerner les pensées des gens, qu'il a dit à cette femme combien de maris elle avait eu, et qu'il a dit à Nathanaël où il avait été, c'était là la confirmation qu'il était le Messie, Dieu Emmanuel, parce qu'il était la parole. Et les prophètes, c'était pareil. Les prophètes étaient considérés comme des dieux. Vous comprenez cela? Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, « Comment pouvez-vous me condamner? Alors que vous appelez ceux à qui la parole de Dieu est venue, vous les appelez des dieux. Ainsi, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » Il était la parole de Dieu confirmée pour cet âge-là. Or, s'il était venu avec le signe de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec le signe de Noé, ce n'est pas ça qui avait été prophétisé pour ce jour-là. Et tous ces clergés et ces théologies et ces écoles de haut savoir et ces écoles et ces ministres instruits, c'est bien, nous n'avons rien contre. Mais ce n'est pas ça le message de l'heure. Ça, c'était pour ce jour sombre. Vers le soir, la lumière paraîtra. Il a promis ces choses. Je l'ai lu maintes et maintes fois dans la parole. Exactement ce qui est arrivé à cette époque-là. Il a dit, c'est ce qui arriverait de nouveau. Je pourrais faire le lien avec toutes les Écritures de la Bible et vous montrer que c'est la vérité. Donc là, il a été confirmé que ses affirmations étaient vraies lorsqu'il a dit que Sarah, ce qu'elle avait fait derrière lui. Maintenant, remarquez, il avait promis que le mois suivant, elle deviendra enceinte à la période de la vie. C'est ce qu'il avait dit. Maintenant, remarquez, le parcours d'Abraham était un type du parcours actuel de la postérité royale. Si vous remarquez, Abraham, la promesse lui a été faite à lui et à ses enfants après lui. Et alors, ses enfants ont été d'abord la postérité naturelle et ensuite la postérité royale qui était Christ. La première postérité, c'est-à-dire que par le sexe est venu Isaac, mais sans le sexe est venu Jésus, la postérité royale. Afin que maintenant le sang, vous voyez, nous sommes sauvés par le sang. Et sans effusion, sans, il n'y a pas de pardon. Remarquez, Jésus n'était pas juif. Jésus n'était pas des nations. Jésus était Dieu. Il ne pouvait pas être ni juif ni de la nation. Regardez, le sexe masculin produit l'hémoglobine, ce qui est la cellule sanguine. Le germe est dans la cellule sanguine. Je vous entends, vous, les gens d'ici, beaucoup d'entre vous. Je me baladais en voiture l'autre jour, j'observais vos fermiers, vous avez des poules. Or, une poule peut pondre un œuf. Une brave maman oiseau peut pondre un œuf. Mais si elle n'a pas été avec le mâle, il n'éclora jamais. Pourtant, elle peut pondre l'œuf, car l'œuf est dans la... est le produit par la femelle. Mais le sang et la vie est dans le sang. Ainsi donc, sa vie était une vie créée. Elle ne contenait le germe d'aucun homme. De plus, l'ovule n'est pas venu de Marie. Parce que si l'ovule était venu de Marie, et c'est ce que la plupart des protestants croient, et que les catholiques aussi, que l'ovule est venu de Marie, là, que c'était l'ovule de Marie, ce qui ferait de lui un être humain. Non, si la cellule sanguine était celle de Dieu, l'ovule aussi était celui de Dieu, parce que Marie n'aurait pas pu produire cet ovule. Vous savez, vous comprenez de quoi je parle. Elle n'aurait pas pu faire cela sans qu'il y ait une sensation. Donc, avec cette sensation, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Dieu? Ce serait de nouveau le sexe, voyez? Donc, les deux, l'ovule et la cellule sanguine, c'était Dieu. Amen. C'est croyez cela et vous aurez la foi pour aller de l'avant. Nous ne sommes pas sauvés par du sang juif ni par du sang non-juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même, une cellule de sang créée. Comme je l'ai dit, prenez ces braves mamans oiseaux. Le printemps arrive. J'ai remarqué l'autre jour qu'elles transportent de la paille et qu'elles montent construire leur nid. Bon, elle peut monter là-haut, faire son nid et pondre plein d'œufs dans son nid. Et elle va les couver et rester tout près d'eux et être loyale envers ses œufs au point de devenir tellement maigre qu'elle ne peut plus s'envoler du nid pour aller chercher quelque chose à manger. Mais si elle n'a pas été avec l'oiseau mort, ils n'écloront jamais. Ils ne sont pas fécondés. Vous savez cela? Ils vont rester dans le nid et pourrir. Et c'est pareil pour certaines de nos églises. Tout ce que nous avons, c'est un nid plein d'œufs pourris. Elles n'ont pas la foi d'Abraham. C'est le moment de nettoyer le nid et de recommencer à neuf, d'entrer en contact, non pas avec une organisation, un séminaire de théologie, mais d'entrer en contact avec le mâle, Jésus-Christ, celui qui donne la fertilité à l'esprit de vie qui est en vous. C'est lui qui vous fait croire à cela. Nettoyez le nid et recommencez à neuf. On leur passe la main dans le dos, on les fait entrer, on fait deux des diacres et eux qui sont mariés quatre ou cinq fois et tout. Mais enfin, on va se retrouver avec quoi au bout du compte? On les envoie dans un séminaire où on leur en injecte ce liquide d'embaumement et après on les fait revenir. Tenez, l'autre jour, on présentait une estimation qui indique que 99 % des prédicateurs protestants de cette nation ne croient pas à la seconde venue littérale de Christ. 87 % d'entre eux nient la naissance virginale. Réfléchissez à ça. À quoi nos enfants seront-ils confrontés là-bas? Oh Dieu, redonne-nous la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Abraham, observez son parcours à mesure qu'il avance. On trouve en lui un type représentant exactement l'Église. Tout ce qu'Abraham a fait, nous avons observé l'Église. Si nous avions une semaine ou deux ici à passer ici, je pourrais vous le montrer point par point. L'Église a suivi le même parcours. Le dernier signe, c'était Dieu, la parole promise. Il lui a parlé dans une chair humaine. La dernière promesse avant la destruction du monde des nations qui étaient Sodome et Gomorre. Maintenant, pensez-y. Abraham, auparavant, Dieu lui était apparu dans de nombreux symboles, des lumières, des formes, des signes, mais jamais Dieu n'était venu à lui sous forme d'un être humain. Il ne lui avait parlé comme un être humain d'une voix audible, sortant d'un être humain. Et souvenez-vous, la promesse est maintenant sur le point de s'accomplir. Sodome va être brûlé. Le dernier message est en train d'être apporté. Et voilà l'Église normale, ou plutôt l'Église dénominationnelle. Voilà un Billy Graham contemporain qui descend là-bas pour les faire sortir. Voilà l'Église élue qui n'est pas dans Sodome, appelée à sortir, séparée. Ils reçoivent un messager. Remarquez, le groupe d'Abraham a reçu le message. Et qu'est-ce que c'était là? Dieu, qui lui avait parlé pendant tout ce temps, par des symboles et des formes et tout, est venu là-bas. Et le voici qui se manifeste ici dans une chair humaine et qui discerne la pensée qui est dans le cœur de Sarah derrière lui. Et Abraham a dit, c'est Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Souvenez-vous, immédiatement après cela, Sodome a été brûlé. Pensez-y. L'Église est peut-être en train de recevoir son dernier signe, voyez-vous? Vous avez poussé des cris, vous avez eu la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, des moments merveilleux à pousser des cris, à vous réjouir, le parler en langue, l'interprétation des langues, la guérison divine. Mais maintenant, où en sommes-nous? Dieu qui parle ici même, parmi nous, à travers nous, de façon audible, tout comme il l'avait fait là-bas. Et il a promis de le faire. Voilà le point. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. La Bible dit, Jésus a dit qu'il le ferait, qu'il se présenterait lui-même de nouveau. Remarquez, immédiatement après cela, Abraham a plaidé en faveur de Lot. Et il a dit que s'il trouvait ne serait-ce que 10 personnes, il épargnerait la ville. Mais il n'a même pas pu en trouver ce nombre-là. Les messagers là-bas, les gens ont rejeté les messagers. C'est comme au petit déjeuner de Billy Graham lorsqu'il était dans notre ville, à Louisville, dans le Kentucky. J'ai assisté à son petit déjeuner. Il a dit, je vais dans une ville. Il a dit, il a montré la Bible. Il croit énormément à la Bible. Il a dit, je vais dans une ville et j'y fais une campagne. J'ai 30 000 convertis ou décisions. Il a dit, et j'y retourne 6 mois plus tard, je n'en trouve pas 30. Il a ajouté, Paul est allé dans une ville et il a fait un seul converti. Et lorsqu'il est retourné un an plus tard, ce converti avait fait des convertis. Et les convertis s'étaient multipliés, si bien qu'à partir de celui-là, des centaines s'étaient convertis. Il a dit, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, c'est vous, bande de prédicateurs paresseux. Il a dit, vous restez assis les pieds sur le bureau. Vous n'avez pas de visiter ces gens, une illitrée comme moi, là, qui suis pour contredire ce grand évangéliste. Mais j'aurais aimé lui dire, Billy, quel prédicateur a pris en main le converti de Paul? Voyez? C'est parce que Paul l'avait fait pénétrer assez loin pour que Christ entre en lui et qu'il devienne un feu vivant jusque dans la présence vivante. Non pas un mouvement intellectuel ou d'être un adhérent ou de signer un bout de papier ou de prendre l'engagement de venir à l'Église. Amenez-le jusqu'au baptême du Saint-Esprit, après quoi il sera plein de feu. Il produira des enfants. Comment peut-il le faire alors qu'il est stérile? Il ne peut avoir d'enfants que s'il a lui-même la vie. Et c'est le seul moyen par lequel quoi que ce soit puisse se reproclamer. C'est par le germe. Et le germe est le Saint-Esprit qui était en Christ et qui est dans le croyant. Maintenant, nous remarquons que le dernier signe que Dieu a donné à Abraham, en fait, c'était Dieu lui-même, la parole. Souvenez-vous, Dieu, la parole promise qui avait été promise pendant tout ce temps, lui a parlé dans une chair humaine, un homme qui était là, qui lui parlait, qui discernait les pensées, qui était dans le cœur de Sarah, et elle était là, derrière lui, dans une tente. Cela a été le dernier signe. Maintenant, remarquez, il était apparu auparavant dans de nombreux symboles et tout, tels que des lumières et un feu et tout, et il lui était apparu, mais maintenant, remarquez, et immédiatement, je voudrais vous faire remarquer ce qui est arrivé à ce vieux couple. Là, j'espère que vous ne me trouverez pas radical. Et si vous ne croyez pas ceci, alors laissez l'autre côté, tout simplement, voyez-vous. Mais je voudrais juste vous dire, selon moi, ce qui est arrivé. Avez-vous remarqué, là, comment Sarah arrivera-t-elle à avoir ce bébé? La voilà maintenant âgée de 100 ans. Bon, quelqu'un dira, eh bien, à cette époque-là, c'était différent. La Bible dit que son sein était mort. Et la Bible dit qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Mais ce qu'il a fait, là, à Sarah et Abraham, qui continuent leur parcours dans cette direction, c'est exactement ce qu'il a promis de faire à leur postérité. Et il l'a fait. Ça, je peux le prouver. Ce sont exactement les étapes qu'a franchies Abraham. Maintenant, regardez où il se trouve, là, au moment où celui qui était Dieu est venu vers lui, dans une chair humaine, s'est fait connaître à lui. Et immédiatement, là, comment Sarah arrivera-t-elle à avoir ce bébé? Or, Abraham avait vécu avec elle, et peut-être qu'il a dit que son corps était comme mort. La Bible le dit. Son corps était déjà usé. Le sein de Sarah était mort, mais il ne douta point, il ne crut quand même. Maintenant, remarquez, si Sarah, j'ai un auditoire mixte, et mes sœurs, pardonnez-moi, vous écouterez votre médecin et moi, je suis votre frère. Mais maintenant, remarquez, Sarah, à 90 ans, est trop âgée pour supporter un accouchement. Son cœur ne tiendra pas le coup, vous le savez. Et autre chose, ses canaux lactaires étaient desséchés. À cette époque, les biberons n'existaient pas, vous voyez. Il fallait que la mère allait. Remarquez. Alors, comment y arrivera-t-il? Comment arrivera-t-elle à avoir ce bébé? Son sein est mort. Son corps à elle est déjà usé. Celui d'Abraham aussi est déjà usé. Savez-vous ce qu'il a fait? Il les a changés. Il les a fait redevenir un jeune homme et une jeune femme. Je peux le prouver. Il les a fait devenir un jeune homme et une jeune femme. Il les a fait redevenir jeunes. Oh, quelle promesse merveilleuse! Vous dites, oh, frère Branham, eh bien, attendez un instant, attendez un peu. Ceci va peut-être déranger un peu les légalistes, mais je voudrais que vous voyez ceci, là, une minute. Bon, nous enseignons ceci comme une leçon à l'école dimanche. Il les a fait redevenir un jeune homme et une jeune femme d'une 20aine d'années. Abraham, maintenant, regardez, il est vieux. Sa barbe descend très bas, son corps est comme mort, la chair de ses petits bras est tout flasque. Sarah, un petit châle sur les épaules, un tout petit bonnet, une petite grand-maman qui avance en clopinant appuyé sur son bâton. Je peux voir le lendemain matin, eh bien Abraham, le dos très voûté, ses cheveux blancs qui pendaient, et Sarah a dit, « Abraham, mon chéri, hey, ta barbe est redevenue noire. » Et Sarah, tes beaux yeux brillent comme ils brillaient toujours. Tes joues ont pris une teinte rosée. Avant que le soleil se couche le lendemain soir, elle était redevenue une jeune femme et lui un jeune homme. Vous dites, quel non-sens, frère Branham. Oh que si, c'est bien ce qui est arrivé. Voyez, c'est là une promesse merveilleuse et un type pour la postérité royale d'Abraham qui arrivera dans l'immédiat. Souvenez-vous, est-ce une promesse? Oui, nous serons changés. Ils ont été changés, sont redevenus un jeune homme et une jeune femme montrant exactement ce qui sera fait à l'Église, la postérité royale. Vous dites, est-ce bien une promesse? 1 Thessaloniciens 4:17, la trompette de Dieu sonnera et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés. Pourquoi? Il fallait que son corps, que leur corps soit changé pour pouvoir recevoir ce Fils. Il faudra de même que nos corps mortels, méprisables, soient changés pour pouvoir recevoir le Fils, parce que nous serons enlevés. Il nous faudra avoir un corps différent de celui-ci, car nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre. Amen. Cela, c'est tout à fait conforme aux Écritures. Vous voyez, ils ont été changés. Si nous devons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, nous ne pouvons pas aller à sa rencontre avec ce genre de corps-ci, parce que nous sommes attachés à la terre, mais nous en recevrons un, alléluia, qui montera dans l'enlèvement. Et le plus beau de l'histoire, c'est que c'est tout proche. Nous voyons tous les signes bien en place. Ça ne va plus tarder. Un beau matin, un changement se produira. Vous voyez? Mais souvenez-vous, il ne se produira que pour la postérité royale, elle seule. La venue de Jésus sera tellement secrète que tous les autres n'en sauront rien. Savez-vous, ça ne sera probablement pas un très grand nombre. Ce qui arriva au jour de Noé, où 8 hommes furent sauvés à travers l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Étroite est la porte et resserré le chemin, il n'y aura que peu qui les trouveront. Vous dites qu'il y aura des millions de personnes là-bas? Oui, celles qui ont été rachetées tout au long des heures, bien sûr. Par contre, cette proposition pour l'enlèvement, où nous nous trouvons maintenant, qu'est-ce qui va se passer un de ces jours? Ils vont dire, là, vous savez, on est dans la période de la tribulation. Je pensais que l'Église allait être enlevée avant la période de la tribulation. C'est la vérité, pas l'Église, l'épouse. L'Église passe par la période de tribulation, mais pas l'épouse. Non, monsieur, elle est rachetée. Elle n'a besoin de rien pour la purifier. Elle est déjà pure. Le Saint-Esprit est entré en elle et l'a purifiée. Il l'a débarrassée de toute la souillure et du barbouillage du monde. Et elle croit cette parole et en est devenue une partie. C'est vrai. Sans le Saint-Esprit, rien à faire. C'est l'épouse qui sort de l'Église. Et là, celle qui est appelée le reste de la postérité de la femme, c'est eux qui sont restés et devront passer par la période de la tribulation. Vous savez, un jour, après que toutes ces écritures d'Ésaïe, de Malachie 3 et d'Ésaïe 40 avaient prophétisé la venue de Jean-Baptiste, Jean est venu de façon tout à fait conforme à ces écritures. Et même les disciples se sont approchés de Jésus et ont dit, « Pourquoi les scribes disent-ils, les écritures disent-elles qu'Élie doit venir premièrement? » Il a dit, « Il est déjà venu et vous ne l'avez pas su. » Il est venu et ils l'ont traité exactement comme prévu et vous ne l'avez pas su. Maintenant, il se pourrait qu'un séjour, vous disiez, qu'en est-il de l'enlèvement? Il est déjà passé, vous ne l'avez pas su. De 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Vous savez, il y a peut-être plusieurs centaines de personnes qui disparaissent de la terre tous les jours. De toute façon, vous savez, ils n'ont pas d'explication. Et pensez donc, comme c'est triste, les gens vont continuer à prêcher et à croire qu'ils reçoivent le salut. Noé est entré dans l'arche et la porte a été fermée derrière lui par la main de Dieu. Le soleil s'est levé et couché pendant 7 jours avant qu'il arrive quoi que ce soit. Et les gens ont continué à prêcher, ont continué à se moquer et tout le reste sans savoir qu'ils avaient été privés de la seule possibilité de miséricorde qui leur ait jamais été donnée. Pensez-y, les ministres continueront à instruire les prédicateurs et à les envoyer à ce genre de choses-là, continuera, l'Église poursuivra son chemin simplement, complètement privée de miséricorde, privée de tout, retranchée complètement, l'enlèvement sera déjà passé. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est ce que dit l'Écriture. Il est déjà venu et vous ne l'avez pas su. Réfléchissez à ça ce soir, mes amis. Regardez ce qui est en train de se passer. Il n'y a absolument rien d'autre que la parole de Dieu qui puisse vous apporter du réconfort maintenant. Voyez, il n'y a aucun autre espoir, ni votre nation, ni nulle part ailleurs. Nous sommes rongés par les vers jusqu'à la moelle. Vous le savez, le communiste a infesté toute la chose. Il faut qu'il en soit ainsi. Vous n'arrêterez pas ça. La Bible dit qu'il en serait ainsi. Donc, vous ne pourrez pas arrêter ça. Préparez-vous pour l'enlèvement. C'est la seule chose à faire. Thessaloniciens, le 1 Thessaloniciens 4, 17 dit que nous serons changés. Comme Abraham l'a été, il est enlevé, un corps différent. Or, dans le cas d'Abraham, il a fallu que leur vieux corps soit changé, leur nôtre aussi. Les nôtres aussi vont devoir être changés pour pouvoir accomplir la promesse. Nous devons être changés. Bon, direz-vous, ces vieux corps, je parlais chez les Kiwanis il y a quelque temps, et un médecin est venu après, il m'a dit, « Monsieur Branham, il a dit, j'apprécie vos propos, mais il a dit, vous savez, je ne peux pas croire que quoi que ce soit, à moins que cela puisse être prouvé par la science. Ses propos sur la naissance virginale et les choses du genre et le fait qu'il soit Dieu. » J'ai dit, « Eh bien, vous ne croirez jamais en lui parce qu'on ne peut pas prouver Dieu par la science. C'est par la foi qu'on doit croire en lui, par la foi. » Il a dit, « Eh bien, moi, je ne crois rien qui ne soit pas concevable scientifiquement. Êtes-vous un homme marié? Oui, monsieur. Aimez-vous votre femme? Certainement. » J'ai dit, dans ce cas, montrez-moi scientifiquement ce qu'est l'amour. Je voudrais en acheter. Si vous pouvez m'indiquer la pharmacie où on en vend, j'en ai vraiment besoin. J'ai dit, voyez, toute chose, toute simple. J'ai dit, je vais vous poser une question. Voici, sommes-nous faits de la poussière de la terre? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, nous recevons cette poussière en mangeant la nourriture qui provient de la terre, ce qui est la vie végétale et tout. Voyez, vous ne pouvez vivre que de substances mortes, voyez. Si vous vivez, quelque chose doit mourir pour vous permettre de vivre physiquement. Si vous mangez des pommes de terre, elles meurent. Si vous mangez du bœuf, la vache meurt. Si vous mangez du porc, le cochon meurt. Si vous mangez des légumes verts, ils meurent. C'est une forme de vie. Et vous ne vivez sur le plan naturel que par la substance de quelque chose qui est mort, des substances mortes. Alors, mon ami, cela tombe sous le sens. N'est-ce pas que vous ne pouvez vivre éternellement que par la substance de quelque chose qui est mort pour vous? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité pour confirmer sa divinité. Maintenant, remarquez. J'ai dit, « Docteur, si je mange de la nourriture, alors chaque fois que je mange de la nourriture, elle entre dans mon corps et produit des cellules sanguines. » Il a dit, « C'est bien ça. Alors chaque fois que je mange, je renouvelle ma vie. » Il a dit, « C'est exact, de nouvelles cellules sanguines. » J'ai dit, « Je voulais vous demander quelque chose dans ce cas. » Quand j'avais 16 ans, je mangeais du maïs, des haricots, des pommes de terre, de la viande, comme je le fais aujourd'hui. Et chaque fois que je mangeais, je devenais plus costaud et plus fort. Et quand je suis arrivé à environ 22 ans, tout être humain, peu importe la quantité de nourriture qu'on mange, ni la qualité de la nourriture qu'on mange, on devient plus vieux et plus faible. Bon, si je verse de l'eau de cette coupe-ci dans celle-là et que je la remplisse à moitié, et là, je continue à verser après qu'elle soit à moitié pleine, et puis écoute, monter, ça descend, prouvez-moi par la science ce qui se passe là. Comment se fait-il que je mange la même nourriture, que je renouvelle ma vie chaque jour, selon c'est prouvé par la science, que je renouvelle ma vie quand j'ajoute de nouvelles cellules sanguines, et ce sang est pareil à ce que je recevais quand j'avais 16 ans? Mais comment se fait-il qu'à partir de l'âge de 20 et 20 quelques années, là, peu importe la quantité de nourriture que je mange, je vais en baisser, je vieillis toujours de plus en plus, toujours, je décline tout le temps, plutôt que de me remplir comme elle le faisait autrefois. Maintenant, elle m'épuise. C'est un rendez-vous, vous voyez? Mais Dieu a fait une photo et vous a capté à l'âge de 20 et quelques années. S'il n'y a pas eu d'entrave, comme dans le cas du petit garçon infirme assis ici, c'est comme une tige de maïs qui commence à pousser. Il y a quelque chose par-dessus qui l'a fait pousser de travers. Si vous pouvez ôter ça, cette affaire tordue qui a provoqué ça, la tige se redressera. Il le faut, c'est tout. Remarquez, s'il n'y a pas d'entrave, alors voilà une belle jeune femme, un beau jeune homme, vous et votre mari, vous êtes là ensemble, un Adam et une Ève, contemporains comme au commencement. Dieu a dit, les voilà, maintenant mort, vas-y. Tu peux les attaquer, tu peux te mettre en action pour les emporter, mais tu ne peux pas les emporter complètement tant que je ne lancerai pas cet appel. Or, qu'est-ce que c'est? C'est l'image négative. Oh là là! C'est exactement ce qu'il a fait à Sarah et Abraham. Il a effacé la vieillesse. La vieillesse est un signe de mort. Il n'y aura aucun signe de mort dans le ciel. Vous voyez? Tout souvenir de la mort sera effacé. Il n'y aura pas de vieillesse. Nous serons tous jeunes. C'est tout simplement une photo qui a été tirée par Dieu dans votre jeunesse. Et là, Dieu a pris Abraham et Sarah et les a ramenés tout droit à ce bel âge de la jeunesse à nouveau. Alors voilà, c'est ça. Et je veux vous fournir une autre preuve, là. J'ai l'impression que ce n'est pas bien reçu. Je vais devoir... Vous ne le croyez pas. Eh bien, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer que c'est bel et bien ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez bien. Regardez où ils se trouvaient sur la carte lorsque Dieu leur est apparu là-bas, près de Sodome. Immédiatement après, ils ont fait un trajet de près de 300 000 pour se rendre à Gérar. C'est tout un trajet, ça, pour un vieil homme et une vieille femme. Voilà ce vieillard, la barbe qui descend très bas, appuyé sur son bâton. Voilà la petite grand-maman, vous savez, son petit bonnet sur la tête, qui marche derrière lui, entraînant les pieds, qui avance en faisant des petits pas de 4 ou 5 pouces. Et le problème, c'est que quand ils sont arrivés à Guérard, il y avait là Abimelech, un roi qui cherchait une petite amie. Il avait là, bah, toutes ces belles femmes, les Philistines, à sa disposition. Quand il a vu Sarah, il est tombé amoureux d'elle. Il voulait la prendre pour femme, pas vrai? Ah, ah! Oh frère, la Bible est comme une lettre d'amour. Il faut lire entre les lignes pour voir ce qu'elle veut dire. Dieu a dit qu'il avait caché cela aux yeux des sages et des intelligents et qu'il l'avait révélé aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Quand je suis sur les champs de mission, ma femme m'écrit une lettre. Je l'aime et elle m'aime. Et elle dit, « Cher Bill, ce soir, je viens de coucher les enfants. J'ai travaillé aujourd'hui. Je vois ce qu'elle lit et ce qu'elle écrit. Mais voyez, je l'aime tellement que je peux lire entre les lignes. Je sais de quoi elle parle. Elle n'a pas besoin de le dire. Je le sais parce que je peux lire entre les lignes. Et c'est comme ça avec Dieu. Quand on ne cherche pas à étudier ces choses en les considérant d'un point de vue de journaliste ou d'un point de vue théologique, mais qu'on tombe en amoureux avec lui, approchez-vous de lui et faites-le vraiment entrer dans votre cœur. L'amour de Dieu répandu dans nos cœur par le Saint-Esprit. Ensuite, allez-y, lisez la Bible et vous verrez tout cela ressortir clairement entre les lignes. Voyez, vous savez où ce qu'il est en train de dire. Il ne l'a jamais dit clairement dans la parole. J'ai déjà rendu grâce au Père parce qu'il avait caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents. Or, personne d'autre ne peut lire les lettres de ma femme de cette manière-là parce que l'amour que j'ai pour elle est comme ça. Voyez, c'est comme ça qu'elle m'écrit. C'est comme ça que Dieu vous écrit. C'est entre les lignes que vous lisez cela. Là, voilà donc Sarah, bien sûr, elle s'est rendue là-bas. Vous pouvez imaginer la petite grand-maman. Vous savez, là-bas, toutes ces jolies filles, dans le champ des Philistins, dans la contrée de Guérard, et voilà Abimelech, un jeune roi de belle prestance, et il désire avoir une petite amie. Alors, il regarde partout. Elles sont jolies et tout, mais il voit grand-maman qui arrive, vous savez, tremblotante, nerveuse. Il s'amène et dit, « Voilà celle que j'attendais, c'est elle! » Il a dit, « Oh! » Et Abraham a dit, « Je te prie, Sarah, fais-moi cette grâce, tu es belle figure. » Tu sais, il a dit, « Lorsque tu arriveras là-bas, dis que je suis ton frère, et je dirai que tu es ma sœur, parce que... sinon, ils me tueront, ils t'enlèveront. » Voyez, à cette époque, on ne pouvait pas avoir deux femmes en même temps, voyez, donc nous, ou plutôt, ils ne pouvaient pas avoir deux maris en même temps. Un seul jour, je vais prêcher là-dessus, et là, vous dites que la semence du serpent a causé beaucoup d'émoi. Mais attendez un peu que ceci soit divulgué. Qu'en est-il, là? Souvenez-vous, nous constatons donc que lorsqu'il a vu venir cette petite grand-maman, comme ça, Abimelech est tombé amoureux d'elle, et il l'a enlevée pour faire d'elle sa femme. Réfléchissez à ça. Le voyez-vous, là, qui les avait fait redevenir jeunes? Bien sûr, forcément, qu'il avait fait cette lettre d'amour qu'est la Bible. C'est quelque chose que Dieu nous a écrit. Il l'a caché aux yeux des sages et intelligents. Il l'a révélé aux enfants qui sont disposés à apprendre. Il a caché sa venue. Il a caché Jésus aux yeux des pharisiens. Ces gens très versés dans les Écritures, des gens comme on n'en retrouve plus aujourd'hui, ils avaient beau être très versés, ils ne l'ont pas reconnu. Il était caché. La Bible dit qu'il était caché. Et vous savez, la Bible dit que le clergé d'aujourd'hui, de la même façon, se serait caché, emporté, enflé d'orgueil et mal plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. Vous dites, ça, ce sont les communistes. Non, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là, voyez. C'est vrai, il en est parmi eux qui vont de maison en maison et qui captisent des femmes d'un esprit faible et borné, agité par des passions de toute espèce, et ainsi de suite. Remarquez, nous retrouvons donc Abraham là-bas, et voici Abimelech qui s'amène et dit, « Voilà celle que j'attendais depuis toujours. » Alors il fait venir sa jeune servante pour qu'elle l'amène là-bas, et oh, peut-être qu'elles l'ont bien pomponnée. Elles lui ont en quelque sorte donné l'apparence d'une reine, et cette nuit-là, je voudrais vous faire remarquer ici la grâce de Dieu envers son prophète. Ceci serait peut-être un peu dur à avaler, mais c'est la vérité. Quelles que soient les apparences, peu importe ce qu'il faut que vous regardiez ceci, c'est que la Bible dit, là, je peux voir Abimelech qui se dit, « Demain, j'épouserai cette ravissante jeune fille israélite. Elle est là-bas dans les chambres en ce moment, et mes servantes sont en train de la parfumer, de lui faire une jolie coiffure, de bien la pomponner. » Alors, vous pouvez imaginer une vieille femme de 90 ans qu'on pomponne comme ça pour épouser un jeune roi. Alors, nous voyons, pendant qu'elle pomponne cette ravissante jeune fille israélite, il prend un bain et il s'étend, il allonge ses jambes après avoir fait sa prière et étant là, il se dit, oh là là, oh, pouvez-vous imaginer Abraham qui emploie une ruse pareille, un homme qui dit une chose pareille de sa femme? Parlez-moi d'un lâche. Abraham a fait ça. Et le voilà, assis là-bas, après avoir fait une chose pareille. Remarquez. Et Abimelech, cette nuit-là, le Seigneur lui est apparu en songe et a dit, considère-toi comme un homme mort. Il a dit, tu as la femme d'un autre homme. Il a dit, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Il a dit, elle m'a dit que c'était son frère, et lui, il m'a dit que c'était sa sœur. Il a dit, je reconnais l'intégrité de ton cœur. C'est pour cette raison que je ne t'ai pas laissé pécher contre moi, tu vois. Mais lui, son mari, c'est mon prophète. Regardez la grâce qu'il manifeste envers son prophète. Bien que celui-ci ait eu tort, vous voyez, il a dit, il est mon prophète. Je n'écouterai pas tes prières. Ramène-lui sa femme et qu'il prie pour toi. Sinon, ce sera la fin de toute ta nation. Tous avaient été frappés de stérilité. Réfléchissez à ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Et Abimelech était un brave homme. Il craignait Dieu. Oui, monsieur. Mais voyez-vous ce que fait la grâce de Dieu? Voilà son prophète là-bas qui avait livré sa femme entre les mains d'un autre homme pour qu'il l'épouse, alors même qu'il attendait ce qui avait été promis, cet enfant et tout. Mais quoi qu'il arrive, la grâce de Dieu reste toujours attachée à la parole, c'est vrai. Son mari est mon prophète. Et je n'écouterai pas ta prière. Peu importe combien tu es droit, combien tu es bon, combien tu es intelligent, s'il ne prie pas pour toi, tu es un homme mort. Alors, il a ramené Sarah, la lui a rendue. Oh là là, ensuite, Isaac est arrivé. Maintenant, pour conclure, je veux vite vous faire saisir quelque chose. Isaac est arrivé, alors la promesse s'est accomplie. Maintenant, après la venue d'Isaac, le petit garçon avait atteint l'âge d'environ 12 ans et tout. Dieu a soumis Abraham à un double test. Après qu'il l'avait déjà testé pendant 25 ans, maintenant, il le soumet à un double test. Maintenant, il dit, Abraham, je veux que tu prennes ton fils, là, ton fils unique, et que tu l'amènes sur une montagne que je vais te montrer ici en vision. Je veux que tu l'amènes là-haut et que tu l'offres en sacrifice. Et il a dit qu'il n'a jamais, jamais refusé de le faire. Après que le Seigneur lui a parlé, il s'est simplement levé le lendemain matin, il a scellé ses petits mulets, il a pris du bois et tout, il l'a fendu, il est parti avec ses mulets. Il a fait 3 journées de marche et alors il est arrivé à ce lieu. Il l'a vu de loin après avoir fait 3 journées de marche. Voilà maintenant où se trouvait Abraham, à 3 journées de marche. Et les hommes de cette époque-là n'avaient pas comme nous aujourd'hui des pieds qui marchent à l'essence. Et n'importe quel homme ordinaire peut marcher 25 000 par jour, vous voyez. Jusqu'où est-il allé là-bas, dans ces régions sauvages? Il a dit, maintenant attendez ici, voici quelque chose que j'aime en Abraham. Il a dit au serviteur, il a dit, attendez ici avec les mulets, moi et mon fils, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Comment va-t-il faire cela alors qu'il se rend là-bas pour le tuer? Dieu lui a dit, il a dit, va là-bas et ôte-lui la vie. Mais que dit la Bible dans Romains 4? Abraham savait qu'il l'avait reçu comme venant d'entre les morts. Aussi avait-il la pleine conviction que Dieu pouvait le ressusciter d'entre les morts, d'où en figure il l'avait reçu. Vous voyez, il a dit, attendez ici, comment cela va se faire, je ne saurais vous le dire. Pouvez-vous imaginer ça, ma soeur, vous qui avez ce bébé dans vos bras, et maman, vous qui êtes assise dans ce fauteuil roulant, et toi, petit garçon là-bas, et vous, de ce côté-ci, papa, je ne sais pas comment il va le faire, je ne sais vraiment pas comment il va le faire, mais il va le faire parce qu'il a promis de le faire, en vertu de votre foi, pour le croire. Il l'a fait pour d'autres. Vous voyez? Ce garçon et moi, le jeune homme et moi, nous reviendrons, vous voyez, attendez ici, nous irons adorer. Il a chargé le bois sur le petit Isaac, un type de Christ qui a porté sa croix. Ils sont arrivés au sommet de la montagne, le petit Isaac a eu des soupçons, il a dit, Père, il a dit, mais voici mon fils. Il a dit, eh bien, voici l'autel, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Écoutez ces paroles qui passent entre les lèvres d'Abraham. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. » Ce qui signifie le sacrifice pourvu par Dieu, Jéhovah Jireh, l'agneau pourvu par l'Éternel. Et lorsqu'il lui a lié les mains et qu'il l'a mis sur l'autel, là, imaginez quel moment cela a été. Après qu'il avait attendu ce fils pendant 25 ans, Dieu lui fait l'oblige à faire périr la seule chose dont il avait rendu témoignage pendant toutes ces années. Il était un opprobre au milieu du peuple. On se moquait de lui. Et voilà Dieu qui dit, « Fais périr la chose même qui peut te donner la seule espérance possible que ma parole s'accomplisse en toi. Je t'ai donné ce garçon, il a 12 ans. Tous ont reconnu celui-ci. Eh bien, que tu sois toujours celui que j'ai établi par des nations va tuer ce garçon. » Pouvez-vous imaginer ça? C'est Dieu qui nous montrait quelque chose. Peu importe ce qui que ce soit dit, ou tout ce qui est contraire à cette parole, refusez de le regarder. La vraie postérité d'Abraham croit cela, fait périr ce fils, et Abraham l'a mis là-dessus. Imaginez, il écarte doucement ses petites mèches de cheveux bouclées de son visage, ses petits yeux bruns regardent comme ça, ses petites lèvres tremblent. Il voit ce couteau à large lame que son père sort de... Imaginez un père, il renverse sa petite tête, ramène sa gorge vers l'arrière pour lui transpercer la gorge avec ce couteau, et en obéissance à Dieu, quelles que soient les apparences, peu importe, il a dit, je l'ai reçu comme venu d'entre les morts, Dieu peut le ressusciter. Il a levé le couteau et a mort c'est son geste. Et le Saint-Esprit a retenu sa main. Il a dit, Abraham, Abraham. Il a dit, me voici. Il a dit, n'avance pas ta main. Il a dit, je sais maintenant que tu m'aimes et que tu as confiance en moi, car tu ne m'as pas même refusé. Tu as accepté de me donner ton fils unique. Et à peu près au même moment, Voilà qu'un bélier était retenu par les cornes derrière lui, dans cette région sauvage. Je veux vous demander quelque chose, frères et sœurs. D'où est venu ce bélier? Regardez, on est là-bas, à 3 journées de marche de la civilisation, dans cette région sauvage, où il y a des lions, des chacals, et toutes sortes de chiens sauvages et de bêtes, et tout ça là-bas, qui aurait tout de suite tué ce bélier. Et regardez, Abraham est tout là-haut, au sommet de la montagne, où il n'y a pas d'eau. Il avait ramassé des pierres tout autour pour élever cet autel, et ce bélier n'était pas là. Mais lorsque Dieu a eu besoin d'un bélier, voilà, il était là. Et ce n'était pas une vision. Il lui a donné un coup de couteau et le sang a coulé, il est mort. Cet instant-là, par sa parole, Dieu lui avait donné l'existence et l'instant d'après, Abraham a mis fin à son existence. Vous voyez, Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau. Que ce bélier se trouve là, c'est une chose impossible. Si quelqu'un s'y connaît en mouton dans une jungle, dans une région sauvage comme celle-là, là-bas, tous les animaux sauvages et les bêtes féroces qui se trouvaient là auraient tout de suite tué ce bélier. Il n'aurait pas pu exister là-bas. Et le voici au sommet de la montagne, alors que là-haut, il n'y a pas d'eau, pas d'herbe, ni rien. Et quelques instants plus tôt, il n'était pas là. Et au moment précis où Dieu a eu besoin de ce bélier, il était là, par sa parole, il lui a donné l'existence. Tout comme il lui était apparu là-bas, Elohim, il a eu besoin d'un corps, il a eu besoin d'un corps qui allait revêtir pour redescendre sur Terre. Il a donc simplement rassemblé la lumière cosmique et les pétroles et tout ça. Il est entré là-dedans, voyez, il est Dieu. Il fera la même chose pour vous après que vous ne serez plus qu'une cuillerée de cendre dans la poussière. Il parlera encore et vous serez là. Il appellera votre nom et vous répondrez. La postérité d'Abraham, quelle cette promesse accomplie. Remarquez, c'était un bélier. Maintenant, si vous avez encore une minute, j'aimerais expliquer ceci. Vous savez, l'autre soir, j'ai laissé cela de côté. Je ne l'ai même jamais expliqué à mon église. Vous vous souvenez, lorsqu'il a confirmé ce sacrifice, qu'il a confirmé cette alliance avec lui, il a pris une chèvre, il a pris une génisse, un veau femelle, il les a coupés en deux, il a prié un bélier. Maintenant, souvenez-vous, alors la postérité royale de sa foi, souvenez-vous, ce n'était pas une femelle, c'était un mâle. C'est par un mâle que la promesse s'est accomplie. Remarquez, un bélier, un mâle, pour correspondre à la parole. Il est la parole, il est ce bélier, non pas une femelle. Elles ont été offertes en premier, souvenez-vous, Genèse 15, les femelles ont été les premières. Ensuite, il a pris le bélier a été le dernier. Le mâle, le bélier, la parole qui a été donnée, non pas la chèvre, l'organisation, l'Église, vous voyez, non pas la femelle, l'Église, mais lui, le bélier. Amen. C'est pour ça qu'il est né en avril, pas en décembre, comme fixé par l'Église romaine, l'anniversaire du Dieu Soleil, qu'ils ont fait correspondre au sien, là, le 25 décembre, au moment où il y avait les cirques, si vous avez pris étudié l'histoire de l'Église, et vous comprenez, ils ont établi ça là-bas, ils en fait, c'était l'anniversaire du Dieu Soleil, le solstice, lorsque le soleil reste presque stationnaire, il n'y a pas de changement pendant 5 jours, du 20 au 25 décembre, ils ont fixé l'anniversaire du Fils de Dieu et celui du Dieu Soleil à la même date, un compromis où on joignait le christianisme au paganisme, ils l'ont fixé en décembre. Il n'a pas pu naître le 25 décembre. Allons donc, les montagnes sont complètement enneigées là-bas en Judée. Il est né comme tous les agneaux. Il est né au printemps. Il fallait qu'il naisse sous le signe du bélier parce qu'il était un bélier et le bélier, c'était en avril. Exactement. Il est né sous ce signe de bélier. C'est ce qu'il était. Il était le bélier de Dieu. C'était lui, là-bas, qui a pris la place d'Isaac. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà, pour montrer ici clairement que l'épouse postérité royale ne sera pas appelée par la femelle, l'Église, le sacrifice de la chèvre dénominationnelle, non, mais par lui, la parole manifestée du bélier, car il est la parole et aussi le bélier. Pas appelé, il a dit, non pas appelé de son nom à elle, mais appelé de son nom à lui. Il allait choisir du milieu des nations un peuple qui porterait non pas son nom à elle, mais qui porterait son nom à lui, qui allait porter son nom à lui. Oh là là, pourquoi est-ce que vous le craignez alors? Quelqu'un des nations allait porter son nom à lui, le bélier, pas son nom à elle, l'Église, pas à elle, mais lui. Alléluia! La postérité royale allait voir cela. Ne voyez-vous pas Malachie 4 qui s'accomplit, ramené à la foi originelle, à la parole de Dieu? Sûrement que vous ici, vous pouvez le voir. nous n'aurons pas à rendre cela encore plus clair. Laissez tomber cette dénomination. Homme, revenez à la parole. Et la voix du dernier jour et le signe du dernier jour ont pour but de ramener les gens à la foi originelle. C'est ce que dit Malachi 4. Revenez à la parole. Et la parole, c'était lui, pas elle, lui. Amen. Le nom du Seigneur Jésus. La parole confirmée maintenant de par la promesse, la parole qui avait été promise. Jean 14, 12, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Malachi 4, il est dit là la même chose. Aussi Luc 17 nous dit que dans les derniers jours, la manifestation de ce monde, tout serait en place, correspondait exactement à ce qui arrivait au jour de Sodome, et que Dieu descendrait manifester dans une chair humaine et qu'il connaîtrait les secrets des cœurs. Jésus l'a dit, cette chose, et elle allait se produire au jour où le Fils de l'homme se révélerait à la fin du monde. Voyez, il ne s'agit pas de l'Église, d'adhérer à ceci, d'adhérer à cela. Il s'agit de venir à lui. C'est ce que la postérité d'Abraham a reçu là-bas, ce sacrifice qui a été offert à la place de la postérité littérale. Alors, qu'en est-il de sa postérité spirituelle? Amen. De sa postérité royale, la postérité reine. Amen. Ou si seulement vous pouviez le voir, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est la chair et l'esprit qui s'unissent, qui deviennent un. Regardez dans Matthieu au chapitre 3, voici en chair le Fils de Dieu né d'une vierge qui arrive de la ville, qui s'avance vers Jean-Baptiste. Et il était là, debout dans l'eau. La Bible dit que la parole du Seigneur vient toujours aux prophètes. Pas vrai? Les gens étaient prophètes. Il y avait des centaines d'années qu'il n'avait pas eu de prophète. Mais il était là, un prophète qui se trouvait là et qui prophétisait que Jésus allait venir. Il avait été dans le désert. Il disait avoir vu un signe. Dieu lui avait dit que ce serait le signe qui suivrait ce Messie lorsqu'il viendrait. Il a dit, il est quelque part au milieu de vous en ce moment. Il y a au milieu de vous quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Il se manifestera un jour et lorsqu'il le fera, alors je diminuerai et lui, il croîtra. En regardant, il a vu ce signe et il a dit, le voici qui arrive, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce vieux prédicateur baptiste, le docteur Davis, qui m'a baptisé pour m'introduire dans la communion de l'Église baptiste, discutait de cela avec moi une fois. Il a dit, tu sais ce qui s'est passé, Billy? J'ai dit, non, je ne sais pas, docteur. Il a dit, voici ce qui est arrivé. Jean n'avait jamais été baptisé. Il a dit, Jean a baptisé Jésus. Et tout de suite après, Jésus a baptisé Jean. J'ai dit, ça, je ne sais pas. Alors, je priais à ce sujet une nuit dans une vision. Voici ce que c'était. Vous voyez, jamais il ne l'a fait. Jamais il ne l'a fait. Jamais Jésus n'a baptisé Jean. Eh bien, qu'en est-il? Il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Alors, pourquoi viens-tu à moi? Jésus a dit, laisse faire. Observez le regard de ces deux hommes, les deux hommes principaux sur la terre. Là, il y avait Dieu. Ici, il y avait son prophète. Et la parole est venue au prophète. Ici, la parole est dans la chair. Elle ira au prophète. Ou soit, elle ira au prophète, et il le faut, la Bible le dit. Non, et voici, il était la parole, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et voici la parole qui vient directement au prophète, dans l'eau, pour accomplir et pour confirmer sa prophétie. Amen. Voici, il se tient là, et leur regard se rencontre. L'un, c'est le prophète, et l'autre, c'est la parole. Et lui, Jean, est humble devant lui, il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, alors pourquoi viens-tu à moi? Il dit, laisse faire, car il est convenable qu'ainsi, il est de notre devoir, voyez, convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jean, qui était prophète et qui connaissait la parole, parce que la parole venait à lui, il a reconnu que c'était là le sacrifice, et selon la loi, le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. C'est exact. Il a baptisé Jésus parce qu'il était le sacrifice à venir. Avant de pouvoir commencer sa vie publique, il fallait qu'il soit baptisé, parce que le sacrifice doit être lavé avant d'être présenté. Amen. Alors, il l'a baptisé. Aussitôt après, il est sorti de l'eau, il a levé les yeux, il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe et une voix qui en est sortie en ces mots. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. Dieu et l'homme sont devenus un. » Adam et Ève étaient un au commencement, et quand il les a séparés, elle est tombée en raison de la parole. Elle s'est égarée de la parole, elle est tombée, et tous les âges de l'Église ont fait pareil. Ils sont tombés comme ça pour avoir mal interprété la parole, pour avoir laissé l'interprète Satan là, qu'il avait interprété à Ève. Oh, certainement que cela ne peut pas être juste. Certainement que ceci, certainement que toutes ces choses-là, ça ne peut pas être, ceci n'est pas possible, oh oui. Mais si Dieu l'a dit, alors il en est forcément ici. Il n'y a pas de certainement qui tienne. Il faut que vous naissiez de nouveau. Vous devez absolument recevoir le Saint-Esprit. Ou bien vous le ferez, ou bien vous périrez. Remarquez, et le voici qui arrive. Jésus et Dieu sont devenus un, ils se sont unis. Comme en Éden, où là-bas, Adam et Ève, au commencement, étaient un même esprit. Leur nom était Adam. Vous voyez? Il était à la fois Adam et Ève, les deux ensemble. Et quand il y a eu la séparation afin de subir le test, qu'est-il arrivé? Ève est tombée à cause de la parole. C'était là la parole. Adam est allé à sa rescousse pour la racheter, mais il ne pouvait pas le faire. Il n'était pas digne de la racheter. Ensuite est venu le second Adam pour racheter l'Église, dont l'ombre et le type avaient été présentés là. Maintenant, autant Adam et Ève devaient être un même esprit, autant Christ et l'Église doivent être un même esprit, un même ministère. Vous ferez-vous aussi les choses que je fais? Voyez ce que je veux dire? Ils devaient s'unir. La chair et le sang et Dieu devait s'unir et devenir un seul esprit. Et Jésus-Christ et son Église, c'est un seul esprit. Comment l'Église peut-elle nier la création? Comment l'Église peut-elle nier la chose même que Christ lui a dit de faire? Comment pouvons-nous nier cela et déclarer ensuite que nous sommes de Christ? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je suis le cep, vous êtes les serments, et la vie qui est dans le cep entre dans le serment pour qu'il porte le fruit, des porteurs de fruits. Et toute branche qui ne produit pas de bons fruits sera coupée. C'est ce qu'ont fait les organisations. Elles disloquent la chose, elles embrouillent la parole, elles commencent comme ça. L'un en commence une par ici et l'autre par là, et quelques petits groupes de Ricky font bientôt leur apparition et ils injectent leurs idées, et bientôt, ce n'est plus qu'un grand tas de confusion à la Babylone. Et ils la retranchent. Voilà, jamais une organisation n'a pris forme sans qu'elle soit tombée. Et une fois tombée, pas une seule d'entre elles ne s'est jamais relevée. Là-dessus, je défie n'importe qui. Oui, monsieur, vous connaissez les faits historiques. Pas une seule, jamais. Dieu, dès qu'elle s'organise, il les met au rancœur et ça se termine là. Il prendra un homme quelque part ailleurs, il montrera clairement ce qu'il en est, certainement. Remarquez ceci maintenant. Il faut qu'ils deviennent un. Voilà donc ce que Jésus a dit, la vie qui est en lui sera dans son Église. Et voici exactement ce qu'il avait promis, que dans les derniers jours, la vie qui était en Christ, qui était en se manifesterait à l'époque où le monde serait dans un état comme celui de Sodome, exactement comme il l'est maintenant. Vous ne voyez donc pas, frères et sœurs, ça sert à quoi d'adhérer à l'Église si vous n'avez pas Christ dans votre vie? Christ qui manifeste son identité dans votre vie. Vous voyez, c'est ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce qu'il a dit. Comment pouvez-vous le dire si ce n'est pas le cas? Comment pouvez-vous prétendre appartenir à Christ? Vous dites, frère Branham, comment pensez-vous arriver à faire accepter ça aux gens dans cet âge intellectuel où tout n'est que dénomination? Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à une femme, êtes-vous chrétienne? À l'hôpital, elle a dit, sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs, comme si ça avait un rapport quelconque avec le christianisme, ça. Je suis allé prier pour une autre femme et une autre dame était étendue là, malade, et elle, son fils. J'ai dit, je suis entré. J'ai dit, madame, voulez-vous? Ah oui, j'ai dit, je vous connais, vous êtes madame Oliver. Elle a dit, oui, frère Branham. Elle a dit, j'ai été très malade. Frère Branham, le docteur ne trouve pas ce que j'ai. Voudriez-vous prier? C'est pour cela que je vous ai appelé. J'ai dit, certainement, sœur Oliver. J'ai dit, pourriez-vous incliner la tête? Elle a dit, minute, mais tirez le rideau. J'ai dit, eh bien, d'accord. J'ai dit, j'allais prier, c'est tout. Êtes-vous chrétienne? Nous sommes méthodistes. Eh bien, j'ai dit, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé si vous étiez chrétienne. Elle a dit, tirez le rideau. Vous voyez, borné à ce point. Comment une personne peut-elle en arriver là? Ça, c'est de l'obscurité, des ténèbres. C'est cette divergence dénominationnelle qui leur coupe l'accès aux bénédictions de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans toutes les dénominations. C'est vrai. Frère, n'allez pas vers elle. Prenez-le, lui. Ne prenez pas son nom à elle. Prenez le sien. Vous voyez, prenez son nom à lui. Vous dites, frère Branham, comment arriverez-vous à faire accepter ça aujourd'hui? Comment y arriverez-vous? Il a fait la promesse qu'il le ferait. Il a dit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Comment y arrivera-t-il? Il est toujours Jéhovah Jireh. Il est toujours Jéhovah Jireh. Dieu peut se pourvoir lui-même d'une église. De Saint-Pierre, il peut susciter des enfants à Abraham. Certainement qu'il le peut. Il est Jéhovah Jireh. Vous dites, est-ce que ça marchera? C'est sûr, Dieu l'a promis. Pensez-vous que vous arriverez à... Moi, je ne peux pas, mais lui, il le fera. Je ne suis pas chargé de produire cela, je suis seulement chargé de le prêcher. C'est à lui de le confirmer, il s'agit de lui. Si je me tiens à la vérité, il appuiera cela, il l'a prouvé, il le fera. Vous dites, il fait terriblement noir. Oui, je sais qu'il fait terriblement noir. Et tous les ecclésiastiques entrent dans cette immense organisation, se dirigent vers un massacre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire face à cette situation? Ça me rappelle une petite histoire. Je dirais ceci juste avant de terminer. À Carlsbad, au Nouveau-Mexique, là, il y a des cavernes là-bas. Vous savez, ces gens doivent descendre à une profondeur d'environ 1 mille à l'intérieur de celle-ci. Je n'ai jamais aimé ce genre de choses. Ils sont toujours comme une taupe sous terre. Et à l'intérieur, là, ça descendait. Et en fait, il fait nuit noire. Il y avait là une petite fille, à peu près comme cela, qui est là. Et son petit frère se trouvait de ce côté-ci avec le guide qui les faisait descendre. Donc, il se trouvait dans ce lieu obscur. Et à ce moment-là, il y avait de l'éclairage. Toutes les lumières étaient allumées. Et cet homme, rien que pour... Le guide s'est approché doucement de la lumière. Et le petit garçon garçon le suivait pas à pas. Il observait le guide. Donc, le guide est arrivé là-bas. Il a saisi l'interrupteur et brusquement, il a fermé l'interrupteur. Oh là là, noir, ce n'est pas le mot. À 1000 sous terre, vous savez, il faisait tellement noir qu'on ne pouvait pas faire signe de la main. On ne voyait rien. Et cette petite fille criait à plein poumon. Elle trépignait, elle criait. Et au milieu de tous ces cris, le petit garçon qui se trouvait là à côté a dit « Hé, ma petite sœur! Hé, ma petite sœur! » Et il a dit, « Qu'est-ce que tu veux, mon petit frère? » Il a dit, « N'aie pas peur. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Il est Jéhovah Jiré. » Vous voyez? Il y a ici un homme qui est au milieu de nous ce soir. Le Saint-Esprit, il peut allumer les lumières. Il est la parole. Un homme qui peut allumer les lumières. Je ne sais pas comment il le fera, ce n'est pas à moi de le savoir, mais lui, il sait comment ouvrir l'interrupteur. Il a fait la promesse, il l'a faite là-bas, lorsqu'Abraham tenait le couteau au-dessus de la gorge de son fils, il a allumé la lumière. Oui, il peut allumer la lumière encore ce soir. Inclinons la tête un instant. Que Dieu apporte son aide, qu'il ouvre ce petit interrupteur dans votre cœur. Mes amis, cette semaine, vous avez vu le glorieux Saint-Esprit au milieu de nous, ça ne fait aucun doute. Mais oh, que cette petite lumière s'allume ce soir. Ne manquez pas cela, mon frère, ma sœur. Je pense qu'à lui seul, ce petit chapitre ici au sujet d'Abraham a servi de démontrer, en faisant le lien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à démontrer à quelle heure nous vivons. Christ, rejeté dans notre nation de nouveau, des tremblements de terre en divers lieux, Sodome et Gomorre, l'Église dans l'état où elle est, précisément en train de former l'image de la bête, toutes ces choses se sont produites, comme la Bible le dit, et vous ici, vous le savez, voyez, maintenant, sans cette grande expérience avec Christ, si la vie de Christ entre en vous, maintenant, regardez-vous un peu dans le miroir de Dieu et voyez si vous pouvez reconnaître votre identité ce soir. Si vous aviez vécu du temps de Noé au moment du déluge, de quel côté vous seriez-vous identifié? Si vous aviez vécu du temps de Moïse, vous seriez rangé de quel côté? Si vous aviez vécu du temps de Christ, au moment où toutes les églises étaient contre lui, il a dû se tenir seul là-bas en faisant les choses qu'il faisait, sauf que Dieu était avec lui. C'était suffisant, même tous ses disciples, presque tous, ils l'ont quitté. Mais de quel côté, dans votre état actuel, maintenant, où seriez-vous? De quel côté seriez-vous? De quel côté seriez-vous en ce moment, alors que vous le voyez de nouveau, ici, même au milieu de vous, au milieu de nous? Maintenant, il est ici et il peut allumer la lumière dans votre cœur et remplir votre vie du Saint-Esprit. À présent, combien de personnes ici, pendant que vos têtes sont inclinées, que vos cœurs aussi, vont prier avec moi pendant un instant? Maintenant, Père Céleste, nous savons que tu ne viens pas là et que tu ne fais pas des choses juste pour montrer que tu peux le faire. Tu les fais dans un but. Et Seigneur, cette semaine, je me suis senti conduit à attendre jusqu'à cette minute, ce moment précis, afin que les gens vois d'abord que la parole est confirmée. Ça ne fait plus aucun doute maintenant. Par ce seul personnage-là, Abraham, alors que tous les personnages de la Bible sont reliés directement à cela, et nous voyons aussi dans quelle situation nous nous trouvons maintenant même, Père, avec quelques paroles entrecoupées, mais j'ai fait de mon mieux, je prie maintenant que le glorieux Saint-Esprit qui est ici, qui connaît le secret de chaque cœur, parlera au cœur maintenant même. Fais-le, Seigneur. Parle à celui qui ne partirait pas. Si tu venais ce soir, si la porte se fermait ce soir, s'il mourait en rentrant chez eux, ou s'il mourait fauché par une voiture, ou si demain matin, on les trouvait morts dans leur lit, ils ne seraient pas sauvés. Oh Dieu, je t'en prie, ne laisse aucun d'eux prendre cette direction-là. S'ils se sont contentés d'adhérer à l'Église, Seigneur, qu'il n'ait pas honte de s'avancer et de demander à Dieu un remplissage de son esprit afin que sa vie entre en eux. S'ils n'ont pas compris ces choses, les disciples non plus ne les comprenaient pas, mais ils l'ont tenu bon jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait été répandu. Ils ont alors compris ce qu'il en était. Ils ont écrit la Bible. Je te prie maintenant, Père, de parler à chaque cœur, qu'ils sachent que l'homme qui peut allumer la lumière est juste là, à la porte de leur cœur. Maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées, combien de personnes ici seront très honnêtes et diront, « Frère Branham, je sais que je ne suis pas en règle avec Dieu. Je veux que vous leviez la main. Gardez la tête inclinée. Tout le monde, vous levez la main. Je ne suis pas en règle avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, je l'aime. Je sais que je ne suis pas en règle avec Dieu. Voyez, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver grâce devant Dieu en vue de cet important service de guérison de demain. Si je peux seulement trouver grâce, je ne crois pas qu'il restera une seule chose que Dieu n'aura pas guéri. Si seulement je peux amener les gens à croire. Maintenant, vous qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, et vous savez, c'est ça l'huile. Si on n'avait pas d'huile dans sa lampe, celles-là ne sont pas entrées. Et à votre connaissance, y a-t-il déjà eu un temps pareil où dans les journaux, les presbytériens, les luthériens, regardez la revue des hommes d'affaires chrétiens, les luthériens, les presbytériens, même les catholiques recherchent le baptême du Saint-Esprit par centaines. Et je me demande si ces hommes d'affaires du plein évangile comprennent qu'ils ne le recevront pas. La Bible dit qu'ils... Lorsqu'elles sont venues, elles disaient « Donnez-nous de votre huile », disaient-elles, les vierges endormies, qui se rendaient compte qu'elles avaient eu tout ce temps pour recevoir l'huile, mais elles ne l'avaient pas fait. Donc, lorsque l'époux était sur le point d'arriver, elles ont dit « Donnez-nous de votre huile ». Elles ont dit « Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en acheter chez ceux qui en vendent ». Et pendant qu'elles y allaient, l'époux est venu et l'épouse est entrée. Et elles ont été jetées dans les ténèbres dehors. Elles se sont alors réveillées et ont constaté que l'enlèvement était déjà passé. Et elles ont été laissées là. Où il y aura des pleurs et des gémissements, la période de la tribulation et des grincements de dents, mon frère et ma sœur, ce soir. Mon ami, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, voulez-vous, ou si vous vous sentez repris dans votre conscience assez pour reconnaître que vous devriez l'avoir, voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham, je crois que nous sommes dans la présence de Dieu. Priez pour moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, regardez-moi, toutes ses mains partout. Désirez-vous le recevoir alors? Bon, je sais, vous les méthodistes, les baptistes et tout, et qu'il y a beaucoup de fanatistes qui suivent tout message. Maintenant, vous, les luthériens, je lisais l'histoire de Martin Luther, un des livres qu'on a écrit sur lui il n'y a pas longtemps. On disait que ce qui étonnait du mystère, ce n'était pas tellement le fait que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer, mais qu'il ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son réveil. Et c'est pareil, il y a une multitude de gens que toute espèce qui suivent chaque réveil. Vous savez cela, mais maintenant, souvenez-vous, cela ne fait qu'indiquer qu'il y en a un vrai. Quand vous voyez un faux dollar ou quelqu'un qui fait semblant d'avoir quelque chose, rappelez-vous simplement qu'il existe un produit authentique qui a servi de modèle pour fabriquer celui-là. Sinon, c'est celui-là qui serait l'original, voyez? Donc, comme vous savez bien que ça ne peut pas être l'original. Il faut nécessairement qu'il y ait un original. Et l'original, c'est le vrai Jésus-Christ, celui qui est ici, qui connaît tous les secrets qui sont dans votre cœur en ce moment. Et maintenant, je vais vous demander, si vous l'avez vu, que vous entendez ce témoignage qui atteste des guérisons de toutes sortes et les cœurs des gens qui ont été dévoilés tout au long de cette semaine. Et vous, ça, c'est lui qui vous parle? C'est lui? Je me demande, croyez-vous que si moi, je priais pour vous, cela vous aiderait? Souvenez-vous, le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Pierre, après que Philippe était descendu en Samarie et qu'il avait baptisé là toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ, Pierre est quand même descendu, leur imposer les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Vous voyez? Maintenant, si vous croyez à cela, je me demande, voulez-vous venir à l'avant, tous ceux qui ne sont pas sauvés ou qui n'ont pas le Saint-Esprit? Voulez-vous venir vous placer ici un instant? Je vais prier pour vous. Si vous voulez bien venir dans l'allée où que vous soyez, venez vous placer ici. Approchez-vous simplement et je vais prier avec vous pendant un instant. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que tout le monde chante, là, demain peut-être. S'il vous plaît, Sir Darling, là, s'il vous plaît, très bien. Voulez-vous venir par ici, mes frères? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que tout le monde reste bien tranquille maintenant à prier. Ceci pourrait être le moment crucial qui décidera peut-être du passage de la mort à la vie pour beaucoup, beaucoup de personnes. Étiez-vous tous présents cette semaine? Avez-vous vu le Saint-Esprit, ce qu'il a accompli au milieu des gens cette semaine? Maître, je te prendrai. Oh, ainsi, quand Dieu invite... Ne voulez-vous pas venir, vous qui êtes sans Dieu, sans le Saint-Esprit? Est-ce que vous dites, je fais partie d'une église, frère Branham? Ça, ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, êtes-vous rempli de l'Esprit de Dieu? Entre. Jamais vous n'aurez un jour plus propice que maintenant même, alors que Jésus-Christ a manifesté son identité parmi nous. Viens, il. Et si vous mouriez avant demain matin, à ce moment-là, vous ne pourrez plus faire appel à lui. Ne voulez-vous pas venir maintenant pendant qu'il appelle? Demain, peut-être. C'est ça. Continuez à vous avancer. Venez. Viens. Viens aujourd'hui. Demain, peut-être. Ne refuse pas. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Je sais qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que quelqu'un résiste. Ne fais pas ça, mon frère. Ne fais pas ça. Les anges attendent patiemment. Des cœurs s'élèvent en prière. À toi qui es errant, viens. Maintenant, très. Écoute, mon ami. Croyez-vous que le Saint-Esprit, tout au long de cette semaine, a prouvé qu'il parle ici? Levez la main. Il devrait y avoir deux fois plus de personnes ici, ou même davantage. Je ressens cette impression. Voyez, il n'est pas. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Vous feriez mieux de venir. Souvenez-vous, je ne peux pas vous forcer à venir contre votre gré, mais je crois que ça pourrait bien être un moment où tout ce que vous avez vivement désiré est peut-être sur le point d'arriver à l'instant même. Et s'il se peut que ce soit, j'espère que ça ne l'est pas, il se peut que ce soit la dernière fois que vous serez appelé à venir. Souvenez-vous, il ne contestera pas toujours. Il appellera, après quoi il vous délaissera et ne reviendra plus jamais. Pourquoi ne pas venir tout de suite? Ne voulez-vous pas venir à l'avant, vous représenter vous-même devant Dieu? Dites, je viens prendre ma position, je prendrai ce chemin, je n'ai pas honte, je fais partie d'une église, mais je veux que le monde entier sache que je suis prêt à recevoir Christ dans mon cœur, le Saint-Esprit. Je viens maintenant dans ce but, je suis prêt à marcher droit, à être un vrai chrétien, une vraie dame, un vrai homme. Ne voulez-vous pas venir? Nous allons attendre. Allez, avancez-vous. C'est ça, de là-haut, dans les balcons et dans les allées. Venez, allez prendre des positions. Mon ami, peut-être que je ne vous reverrai plus jamais de ce côté-ci avant la grande heure, mais si je ne vous revois plus, souvenez-vous-en, je serai alors innocent et Christ aussi. Il s'est identifié avec vous. C'est ce que vous le verrez faire dans quelques instants. Très bien. Maintenant, venez, prenez position. Mais vous, dites, frère Branham, vous me jugez. Non, pas du tout. Je juge cette impression qu'il y a en moi. Voyez, il y a quelque chose ici à l'intérieur qui dit, oh, il y en a plus. Il y en a beaucoup plus. Voyez. Bon, vous dites, eh bien, j'ai adhéré à l'Église, frère Branham. Je suis pentecôtiste. Je ne sais pas. Ce que je dis, mon ami, ce n'est pas du tout ce que je demande. Je demande, avez-vous la vie de Christ? Et vous dites, frère Branham, j'ai parlé en langue, c'est bien, mais là encore, ce n'est pas la question que je pose. Vous dites, frère Branham, je n'ai jamais fait mal à personne. Là encore, ce n'est pas la question que je pose. Est-ce que la vie de Christ est en vous? Ne prenez aucun risque, mon ami. Ne faites pas ça. Ce sera lorsque la mort vous frappera. À ce moment-là, c'est trop tard. Ne faites pas ça. Je vous en prie, ne faites pas ça. Là, on a déjà pas mal de personnes ici en ce moment. Je vais devoir faire un peu de place pour les autres. Je vais prier pour ceux-ci et comme ça, nous pourrons aller nous retirer dans une pièce là, ce qui nous permettra d'aller leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, nous allons tout de suite prier pour ceux-ci. Inclinez la tête. Notre Père Céleste, voici ceux qui se sont inclinés. Ici, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des personnes qui sont en route vers l'éternité. Ils devront partir, nous le savons. Nous voyons les tremblements de terre là et le monde dans sa situation actuelle. Et nous voyons le Christ venir à nous et faire les choses qu'il fait. Et nous voyons le message, la parole être proclamée. Et la suite de cela, nous le voyons qui vient directement confirmer que c'est la vérité en connaissant tous les secrets des cœurs. Et ces gens se sont maintenant avancés pour prendre position. Ils n'auraient pas pu faire cela d'eux-mêmes. Ils sont venus parce qu'ils ont été conduits à venir. Et Père, je prie pour eux ici même, non seulement pour leur salut, pour qu'ils soient sauvés, mais pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Que chaque personne qui est ici soit remplie de l'Esprit et qu'à partir d'ici se répande partout dans cette région un réveil qui secourra la population locale et toute la région environnante. Accorde-le, Seigneur, dans toutes les églises, dans l'Église méthodiste, baptiste, presbytérienne, l'Église du Christ, l'Église luthérienne, peu importe laquelle, qu'il se produise un réveil, Seigneur, grâce à ces gens qui retourneront là-bas avec le vrai Saint-Esprit manifestant Dieu dans leur vie. Accorde-le, Père. Maintenant, ils sont à toi, je te les offre. À présent, nous allons les conduire là-bas pour leur imposer les mains, Seigneur, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus. Maintenant, parce que nous avons tous la tête inclinée, je demande à ce groupe-ci maintenant de suivre cet homme qui est juste là à côté de vous pour qu'il puisse que nous puissions aller vous trouver là-bas dans la pièce. Nous avons un endroit de ce côté où vous pourrez vous agenouiller. Nous viendrons vous imposer les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Et quel que soit votre besoin, allez-y tout de suite. Nous pourrons alors vous accompagner. D'autres personnes doivent s'avancer, mais elles sont un peu... Il n'y a pas assez de place pour elles ici. Nous voulons donc prendre une deuxième salle. Bien alors, passez à l'intérieur de ce côté-ci. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je m'adresse aux autres, à vous qui êtes ici en ce moment. Pendant qu'eux sortent, pourquoi ne pas vous avancer maintenant pour la prière de nouveau? Et nous allons maintenant remplir de nouveau cet espace ici tout autour. Nous nous retirons là-bas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous nous retirons après avoir vu le Seigneur Jésus. manifesté son identité ici devant nous cette semaine, alors nous reconnaîtrons sans l'ombre d'un doute que c'est lui qui est ici. Maintenant, souvenez-vous, le même Saint-Esprit, le même Jésus qui a pu me dire ce qui n'allait pas chez ces gens, où il avait été et qu'il était, ou d'où il était venu, ce qu'il allait leur arriver. Vous savez, ce n'est pas jamais failli, pas une seule fois, ça ne faillira jamais, ça ne faillira jamais. Ce même Saint-Esprit m'a dit de faire ceci, c'est vrai, je le fais sous la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, dès que ce groupe se sera retiré dans l'autre pièce, là, avant que nous y allions, nous voulons que vous avanciez maintenant. Vous ici, venez avancer. Maintenant, tous les autres qui désirent recevoir le baptême du Saint-Esprit, venez tout de suite, s'il vous plaît. Avancez par ici, que Dieu vous bénisse, jeune homme. Si quelqu'un d'entre vous sont malades, ne sont pas remplis du Saint-Esprit, pourquoi ne pas venir recevoir Christ? Recevez-le, et là, vous serez en meilleure position ce soir. Cette dame a vraiment été terrassée, tellement convaincue de sa culpabilité, semble-t-il, qu'elle s'est écroulée. Elle l'amène dans la pièce. Maintenant, venez les autres, là, qui doivent venir ensuite. Maintenant, il y a amplement de place tout autour. Avancez-vous, les membres d'Église méthodiste baptiste. Nous ne demandez pas. Écoutez, mes amis, je sais qu'ils disent que la Pentecôte, ils l'ont organisé la Pentecôte. C'est faux. La Pentecôte est une expérience. Les méthodistes la reçoivent, les baptistes la reçoivent. Tous, ils la reçoivent. La Pentecôte n'a pas été organisée. C'est une expérience. Si vous n'avez pas vécu l'expérience de la Pentecôte, venez la recevoir maintenant. Souvenez-vous, si vous croyez que je suis son serviteur, son prophète, souvenez-vous, il existe un authentique baptême du Saint-Esprit au milieu de tout le fanatisme. Il existe malgré tout un authentique Saint-Esprit, une vie authentique. Venez, croyez-le maintenant même. Ne voulez-vous pas venir pendant que nous chantons encore une ou deux couplets de ce chant, parce que je sois bien sûr que mon âme sera pure lorsque je quitterai cette ville, là qu'il n'y aura pas de sang dessus. Je sais qu'il est en train de parler à d'autres personnes. Pourquoi ne pas venir? Peut-être maintenant, aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, petit garçon. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes debout ici en ce moment. C'est ça, venez. De tous les côtés du bâtiment, venez donc, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les balcons, de n'importe où. Avancez-vous donc maintenant, avancez jusqu'ici. Prenez position pour Christ, n'ayez pas honte de lui. Si vous étiez en train de mourir, supposons que vous sentiez à l'instant votre cœur défaillir. Et souvenez-vous, celui qui est en train de vous parler, il tient votre cœur dans sa main. Il connaît le secret de votre cœur. Je le dis au nom du Seigneur, il y aura beaucoup de personnes ici qui doivent venir. Pourquoi ne pas venir? Vous dites, est-ce moi, frère Branham? Oui, c'est vous. Si vous n'êtes pas absolument certain, ne prenez aucun risque. En prière, ah, toi qui es errant, viens. Demain, c'est ça. C'est ça, être la moisson. C'est vrai, la moisson est presque terminée. Venez donc. Demain. Un jour, il sera trop tard. N'attendez pas une heure de plus, une minute de plus. Venez tout de suite et venez, jeune homme, amenez votre petite amie. Amenez votre petite amie, maman, amenez papa. Venez maintenant, tout le monde, jeune femme, jeune homme, qui que vous soyez, homme âge, femme âgée, venez. Ce qu'il vous faut, c'est ceci. Si vous êtes âgé, rappelez-vous ce que je viens de vous démontrer par la Bible. Vous serez changé. Il suffit d'accepter la postérité d'Abraham. C'est l'échec. Triste. Triste. Cri amer. Peut-être, mais perdu. Maintenant, inclinons la tête. Seigneur Jésus, ô Dieu, sonde chaque cœur, sonde chacun, grand Saint-Esprit. Ô Dieu, que ceci ne soit pas fait en vain, mais pas même pour une seule personne. Que chacun, Seigneur, soit sauvé. Ne permette pas qu'un seul d'entre eux s'égare du chemin, Seigneur. Je les réclame au nom du Seigneur Jésus pour qu'ils soient des joyaux de la couronne de mon Seigneur, dont la présence est ici en ce moment, la glorieuse colonne de feu qui se déplace un peu partout dans le bâtiment, qui envahit les cœurs. Je prie, ô Dieu, afin que chaque cœur brise ses chaînes et qu'on se lève et vienne avec douceur à Jésus-Christ en disant, Seigneur, de tout mon cœur, mon être, me voici. Prends-moi et façonne-moi, Seigneur, dans ta grande maison du potier et remplis-moi, fais de moi un fils ou une fille de Dieu. Accorde-le, Seigneur, qu'il en soit ainsi pendant que nous continuons à chanter encore un couplet, d'accord? Ensuite, nous devrons terminer rapidement là parce que nous devons rejoindre les autres là-bas. Demain. Maintenant, venez. Venez tout de suite, d'accord? Que Dieu te bénisse, mon chou. De la bouche des enfants, ils tirent des louanges. Oh, demain peut-être. Oh, ne refuse pas. Ne refuse pas, Jésus. C'est lui qui vous invite, qui parle à votre cœur. Je me demande, est-ce de moi qu'il a question? S'il y a le moindre doute, venez. Attendre patiemment. Des cœurs s'élèvent en prière. À toi qui es errant, viens. Maintenant, inclinons la tête pendant que ceux-ci se préparent. Maintenant, pendant que vous êtes debout ici, baissez simplement les yeux. Souvenez-vous, pour que vous veniez, il a fallu que vous disiez que quelque chose palpite à l'intérieur de vous, vous indiquant qu'un petit quelque chose ne va pas dans votre vie. J'admire la position que vous prenez. Souvenez-vous, Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et devant les saints anges. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Et maintenant, il n'y a pas mal de gens qui sont là en ce moment, qui sont maintenant prêts à se joindre à nous pour prier afin que vous soyez sauvés et remplis du Saint-Esprit. Dites-lui simplement que vous regrettez ce que vous avez fait et qu'à partir de maintenant, vous serez un chrétien par sa grâce et que vous désirez recevoir le baptême du Saint-Esprit et qui vous conduira tout au long du parcours de la vie. Père Céleste, ils sont des joyaux pour ta couronne. Ils n'auraient pas pu venir. Ils n'auraient pas pu venir si quelque chose ne leur avait pas donné un avertissement. Et tu as dit, nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Et voici qu'ils sont venus, parce que quelque chose leur a dit de venir. C'est donc que tu commences une œuvre, Seigneur. Je te prie de la terminer ce soir en eux, Seigneur, en faisant d'eux des fils et des filles de Dieu. Accorde-le. Que pas un seul d'entre eux ne soit perdu. Je te les présente maintenant comme des trophées de ta parole et de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, retirez-vous tout de suite dans la pièce en attendant que nous puissions vous y rejoindre. Allez par ici, à droite. Les huissiers vous conduiront là-bas. Et maintenant, je me demande si les accompagnateurs individuels pourraient maintenant venir se retirer tout de suite avec ces gens. Il y a un bon nombre d'accompagnateurs individuels venus d'autres églises. Vous, les ministres, qui voulez retirer avec nous maintenant dans la pièce pour voir si ceci se fera correctement. Venez vous agenouiller avec vos fidèles afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Chacun, venez accompagner. Vous, les ministres, lesquels, méthodistes, baptistes, presbytériens, qui que vous soyez, vous êtes invités, venez accompagner. Et vous, les accompagnateurs individuels venus de différentes églises, qui savez prier avec les gens, leur imposer les mains, venez maintenant. Ces personnes sont remises entre vos mains. Ce sont les trophées de la parole. S'il vous plaît, venez maintenant, vous, les accompagnateurs individuels, et dirigez-vous là, avant que nous fassions un changement à la réunion ici pendant un instant. Venez maintenant, vous rejoindrez à eux, c'est bien. Retirez-vous tout de suite dans la pièce. Il y a beaucoup de place là-bas en ce moment. Allez tout de suite et faites tout ce que vous pouvez pour aider ces chères personnes. Jésus, il les a amenés là, il les a attrapés dans le filet de l'Évangile. Maintenant, conduisez-les là-bas et prions avec eux afin que Dieu remplisse chacun d'eux du Saint-Esprit. Fermez les portes, ne bougez pas de là avant que cela se produise. Il a promis qu'il le ferait, il l'a promis, il tiendra sa promesse. Il est fidèle, autant pour tenir sa promesse que pour apparaître ici devant nous. Seigneur, bénis-les. Ministre, êtes-vous ici, prédicateur laïc, vous qui avez à cœur de veiller sur les gens ou de les amener à recevoir le Saint-Esprit, soyez à votre poste maintenant. Accompagnez-les, assistez vos fidèles, vous les hommes qualifiés qui avez de l'expérience pour ce qui est du Saint-Esprit, et vous les femmes qualifiées qui savez ce que cela signifie, allez trouver les sœurs qui sont là-bas, à l'endroit où elles sont. Vous qui savez ce qu'il faut faire, restez auprès de ces gens qui sont là-bas en ce moment. C'est à votre tour d'agir. C'est le moment d'être à votre poste, c'est le feu vert, le moment pour vous de vous mettre en action. Que Dieu vous bénisse, c'est ça, prenez simplement votre place, accompagnez-les là-bas et restez-y, assurez-vous que ce sera fait correctement. Restez-y jusqu'à ce que vous voyez la douceur de Christ en chacun d'eux. Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Amen et amen. Oh, j'aime ça. Voyez tous ceux qui se sont retirés là-bas. Est-ce qu'il y aura encore une personne ici qui n'est pas allée là-bas et qui devrait y aller? Si oui, s'il vous plaît, levez-vous et suivez tout de suite les accompagnateurs individuels. Faites-le, d'accord? S'il y a une personne ici qui a le sentiment qu'elle n'est pas où elle devrait être. Maintenant, souvenez-vous, frères et sœurs, je n'ai pas le pouvoir de faire arriver ces choses. Vous voyez, c'est Dieu qui fait ces choses, pas moi. Maintenant, je prie que Dieu vous accorde ces choses et qu'il vous donne une expérience du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, tous ceux d'entre vous ici qui aiment le Seigneur Jésus et qui veulent aller prier, retirez-vous là-bas maintenant pour prier avec ces gens, d'accord? Merci, un grand merci. Vous savez, quand je vois des accompagnateurs individuels aller auprès des personnes, j'aimerais dire ceci à propos de vous qui êtes ici, sur la montre de quel trempe vous êtes. Je suis allé dans des endroits où j'ai même vu des gens qui étaient censés être remplis du Saint-Esprit. Eh bien, lors de l'appel à l'hôtel, on n'arrivait pas à convaincre ces gens d'aller auprès de qui que ce soit pour prier avec ces personnes. Vous voyez, ça montre que c'est Ichabod. L'Esprit du Seigneur s'est retiré, voyez. Mais quand on voit ce zèle et ce feu et ce désir profond qui pousse vers l'âme, les âmes humaines, si vous remarquez au long de cette semaine, j'ai simplement pris mon temps et j'ai regardé au discernement et à ce genre de choses pour que les gens saisissent, qu'ils constatent que le Saint-Esprit est tout près. Et ensuite, j'ai fait cet appel à l'autel. Vous, les ministres, vous avez compris ce que j'étais en train de faire, voyez, faire l'appel à l'autel maintenant. Ils sont convaincus, alors ils sont des centaines à s'être retirés là-bas pour recevoir le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes les ont accompagnés pour prier avec eux. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre ici, je dirais ceci. Vous avez vu la présence de Christ cette semaine qui a confirmé lui-même qu'il était ici. Vous l'avez vu. Et maintenant, souvenez-vous qu'il n'y aura pas de sang sur moi ce jour-là. Si c'est demain, un jour, cela arrivera. Souvenez-vous-en, nous nous en tiendrons là. Qui que vous soyez, vous vous tiendrez là de toute manière. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, nous nous tiendrons là. Or, si vous n'êtes pas parfaitement sûr que vous avez Christ, le Saint-Esprit, dans votre cœur et qui confirme sa présence en vous par l'amour, la paix, la joie, les fruits de l'Esprit, la vie de Christ qui se vit en vous, alors rappelez-vous, votre sang n'est pas sur mes mains. Et lui non plus ne sera pas coupable, puisqu'il est apparu devant vous et il s'est présenté ici en conformité parfaite avec les Écritures. Combien attesteront cela en levant la main pour dire « J'ai vu cela cette semaine ». C'est vrai, voyez, alors nous sommes sans faute, nous sommes sans excuse. Y aurait-il maintenant quelqu'un qui voudrait encore, une personne qui aimerait venir pour que je puisse dire, lorsque mon heure sera venue, de quitter cet endroit, demain, si le Seigneur le veut, que je puisse dire, je n'ai sur moi le sang d'aucune de ces réunions de réveil. J'ai vraiment fait de mon mieux, Seigneur. Je remets cela entre tes mains. Maintenant, toi, chacun. Maintenant, combien de personnes ici sont malades et ont besoin en ce moment et vous aimeriez qu'on prie pour vous? Levez donc la main. Très bien. Partout dans le bâtiment. À présent, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Maintenant, êtes-vous des croyants? Là, je voudrais maintenant que vous fassiez quelque chose pour moi. Posez vos mains les uns sur les autres. Posez simplement vos mains là, les uns sur les autres. Et maintenant, je regarde. Je veux que vous priez tout simplement. Maintenant, souvenez-vous, toutes les personnes qui vont passer dans la ligne de prière demain devront arriver tôt et avoir une carte de prière. Ayez-la en main lorsque ce sera le moment de former la ligne là. Si vous avez un bien-aimé, vous, les frères méthodistes, baptistes, presbytériens, que vous soyez, si quelqu'un des vôtres sont malades là, vous n'aurez qu'à venir avec eux. Venez simplement dans la ligne avec eux. Venez chercher une carte de prière parce que ensuite, apportez la carte de prière dans la ligne. Les huissiers la prendront là. On fera passer ces gens, on priera pour eux. Je crois que Dieu fera de grandes choses demain. J'espère qu'il le fera. C'est pour cette raison que je fais des appels à l'autel et que je fais tout ce que je peux afin de trouver grâce devant lui. Maintenant, pendant que nous inclinons tous la tête et que vous, vous priez l'un pour l'autre, maintenant la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Priez maintenant pour l'homme ou pour la femme sur qui vous avez posé votre main, car eux, ils prient pour vous. Voyez, ne priez pas pour vous-même. Priez pour eux. Posez vos mains les uns sur les autres et priez. Posez simplement vos mains, c'est ça. Priez maintenant comme vous le faites dans votre église. Dites, Seigneur Jésus, guéris cette pauvre chère sœur, ce pauvre cher frère, qui que ce soit. Ils sont malades, Seigneur. Et moi, je suis un croyant et je vais me conformer à ta parole. Et ta parole dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les malades seront guéris. Et je pose mes mains sur les malades, cette personne malade, ce frère malade, cette sœur malade. Je te prie, ô Dieu, de confirmer ta parole. Alors, le signe accompagnera cela et ils seront guéris. Seigneur Jésus, je prie pour eux et pour ces mouchoirs, afin qu'au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu guérisses chaque personne qui est dans la présence divine. Satan, tu as perdu la bataille. Ils ont vu la présence de Christ. Ils ont entendu sa parole. Ils l'ont vu manifester. Des pécheurs se sont retirés là-bas. Ils cherchent le salut. Tu as perdu la bataille. Sors de ces gens au nom de Jésus-Christ. Laisse-les. Là, ne les tourmente plus. Et que le Dieu du ciel les relève, leur redonne la vie, une bonne santé et la force. Que ceux qui ont des cartes de prière n'aient même plus besoin de passer dans la ligne de prière demain. Que le Saint-Esprit se répande abondamment sur ce groupe de gens et guérisse chacun d'eux pour la gloire de Dieu. Maintenant, allez-y, frère.
Chantons, allez.
Alléluia à l'agneau, comme il est grand pour nous.
Oh, Alléluia à l'agneau. Alléluia à l'agneau. Qui a été immolé sur le chemin.
Merci Seigneur.
And by his stripes we are clean.
Nous sommes guéris.
And by his blood
nous sommes scellés.
Hallelujah, hallelujah to hallelujah. The Lamb of God. Oh, hallelujah,
hallelujah
to hallelujah. The
hallelujah.
Lamb. Hallelujah,
hallelujah
to the Lamb that was slain upon.
Chantons-le encore une fois. Amen.
Oh, alléluia à l'agneau. Alléluia à l'agneau. Qui a été immolé upon the tree. Par ses
mains,
nous sommes guéris.
À son sang, nous sommes scellés.
Oh, alléluia,
à l'agneau.
Amen. One more time.
Encore une fois. Amen. Louez soit ton nom, Seigneur.
Alléluia, à l'agneau. Oh, alléluia, à l'agneau.
Qui a été immolé
sur le
nom.
Par ses meurtres et sur nous sommes guéris. Et par son sang nous sommes scellés. Oh, alléluia, alléluia.
Inclinons la tête. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Vraiment, nous servons un Dieu vivant. Seigneur, juste de voir ces gens, que tu as parlé à leur cœur et qu'ils s'avancent comme ça, Seigneur. On voit ta présence parmi nous, Seigneur. Et oh, Seigneur, comme nous t'aimons et te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Car, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous étions des dénis, Seigneur, nous étions bons à rien. Mais Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur. Et tu es venu en nous, Seigneur. Tu as fait ce sacrifice ultime, Seigneur. Tu as pris notre place pour que nous puissions être à ta place, Seigneur.
Lord, thou art perfect, Father.
Oh, comme c'est parfait, Seigneur.
Lord, it just places in our heart, there's no question,
mais,
Father. There's no question.
Mais dans notre cœur, qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute dans notre cœur.
Lord, your word goes forth,
Seigneur, ta parole a été prononcée et nous l'avons reçue, nous la croyons.
Juste
dans ce bâtiment, Seigneur, d'écouter et de savoir que c'est la voix de Dieu pour nous, Seigneur. Combien de fois, Seigneur? Combien de fois, Seigneur, est-ce que tu nous as montré, Seigneur, juste de penser que de venir devant Abraham,
Seigneur.
Comment est-ce que Abraham savait que c'était Elohim? Seigneur, il a discerné les pensées qui étaient à Sarah, derrière lui, Seigneur. Et si nous recevons le même signe aujourd'hui, comment savons-nous que ça vient? Nous le croyons de tout notre cœur. Et Seigneur, tout ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est de se plus près de toi, Père. Et nous pouvons seulement faire ça par la parole, Père. Cette voix, Seigneur. Oh, je prie que tu bénisses chaque personne aujourd'hui. Et comme nous te remercions pour Frère Samuel, Seigneur, et tout ce qu'il fait, Seigneur, et sa position, et qu'il reste avec cette parole. Seigneur, nous sommes si reconnaissants pour lui, Seigneur. Des gens qui peuvent se rassembler ensemble, Seigneur. Où pourrais-tu trouver ça comme ceci, Seigneur, qui croit chaque parole? Seigneur, il n'y a pas une pensée, un esprit, Seigneur. Et comment d'autres, est-ce que cela pourrait arriver sans que cette parole et cette voix que nous croyons et que nous l'avons acceptée? Et Seigneur, nous te remercions pour chaque personne, Seigneur, qui s'avance, qui sont à l'écoute sur la ligne, ils font partie de nous, nous le croyons, nous les aimons. Nous te remercions pour eux, Seigneur. Je pense à Frère Joseph. Oh, Père.
Lord, how the way of a true prophet.
Je pense au message, la voix d'un vrai prophète.
Oh, we know Moses came and
nous savons que Moïse est venu.
Et a amené
les enfants sortir. Mais quand Josué s'est levé, il était encore un prophète. Et les apôtres été. Qu'est-ce que Moïse a dit? Père, nous voyons Frère Joseph se lever et dire, qu'est-ce que Frère Branham a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Père, il ne fait que nous pointer vers la parole, Seigneur. La parole, Seigneur, c'est tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Tu es tout pour nous. Père, nous apprécions sa position, son obédience à cette parole, Seigneur, et qu'il ne fait jamais aucun compromis sur aucune parole, Seigneur. Nous te remercions pour lui, Seigneur.
Maintenant,
Seigneur, sois avec chaque personne, Seigneur, qui voyage, donnant la grâce de voyager. Nous savons que tu as touché chaque cœur ici aujourd'hui. Nous le croyons, Père, et nous t'aimons. Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, et là-bas, Frère Billy, on ne peut pas s'empêcher de penser à lui et de mentionner son nom. C'est un tel témoin, Seigneur. Et toutes ces choses qu'il a vues. Oh, comme nous te remercions pour lui et sa famille, Seigneur. Et chaque personne a une part à jouer, Seigneur. Nous t'aimons, nous te louons. Nous te remercions dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Oh, alléluia to the Lamb. Alléluia to the Lamb.
Continuez à fredonner alors que vous quittez. La réunion est terminée dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et paix à chacun de vous.